Europe 1.
Nous sommes le vendredi 15 mars. Bonne journée, il est 7h.
Nous avons un objectif. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre.
Emmanuel Macron en chef de guerre à la télévision hier soir. Si l'Ukraine tombe, notre sécurité est menacée. Il faut se tenir prêt à répondre à Moscou, dit-il. Mais a-t-on les moyens militaires de ces discours guerriers? Élément de réponse dans un instant. Dans l'actualité également, parmi eux se trouve peut-être le meurtrier du Todd de Thomas à Crépol. 3 nouveaux suspects ont été mis en examen hier à Romans-sur-Isère. Et puis les syndicats d'enseignants, eux, n'en veulent pas, mais Gabriel Attal maintient le cap sur les groupe de niveau au collège. On va en parler dans un instant. Le journal de 7h sur Europe 1, Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Près de 40 minutes d'entretien et des accents guerriers à chaque tournure de phrase. Emmanuel Macron n'exclut pas une nouvelle fois d'envoyer des troupes en Ukraine pour se défendre face à une Russie qui nous menace directement, dit-il, et qui ne doit absolument pas faire tomber Kiev. Jacques Seret, le chef de l'État, a fait peur aux oppositions, c'est ce qu'elles ont dit. Il les a d'ailleurs ciblées également.
Rien ne doit être exclu. Cette phrase prononcée il y a 2 semaines au sujet de l'envoi de troupes au sol, Emmanuel Macron l'assume.
Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure.
Mais nuance son propos.
Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative.
Tout en insistant sur la gravité de la situation aux portes de l'Europe.
Je vous le dis avec la plus grande solennité, ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait.
Il y a un danger existentiel pour la France.
La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas.
Et le chef de l'État de cibler, sans les nommer, le Rassemblement National et la France Insoumise après leur prise de position à l'Assemblée.
Choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, c'est pas choisir la paix, c'est choisir la défaite. Et c'est très différent.
Une différence fondamentale à ses yeux qu'il jugeait donc utile de rappeler à 3 mois des élections européennes.
Et au moment où Vladimir Poutine montre d'autant plus les muscles que la présidentielle russe s'ouvre aujourd'hui. Mais se tenir prêt face à Moscou, comme le dit Emmanuel Macron, en a-t-on vraiment les moyens militaires? Non, rétorque le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre.
Nous n'avons pas les moyens et nous les aurons encore moins demain matin, ou plutôt le 6 novembre prochain, si Trump est élu. Donc on a un problème d'adaptation des moyens. On a même une urgence dans l'adaptation des moyens, d'autant plus que, et ça n'est pas suffisamment dit, l'Europe n'a pas d'autonomie opérationnelle. C'est-à-dire que si les Américains nous quittent le 6 novembre prochain, ils ne quitteront pas l'OTAN, mais ils peuvent quitter le territoire européen, eh bien nous ne pouvons pas nous battre seuls. Cette dépendance, elle a été organisée par les États-Unis depuis longtemps.
Le général Vincent Desportes qui évoquait Donald Trump, dont un des procès à Manhattan pourra être reporté d'un mois. Le parquet a donné son accord hier, alors que ses avocats le demandaient pour prendre connaissance de nouveaux éléments ajoutés au dossier, mais surtout dans l'espoir d'une décision à venir de la Cour suprême des États-Unis sur son immunité parlementaire présidentielle.
Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h03.
Bientôt 4 mois après le meurtre du jeune Thomas à Crépol, la liste des mises en cause s'allonge.
Sur les 11 jeunes du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère interpellé lundi et suspecté d'avoir poignardé l'adolescent de la Drôme. 6 ont été relâchés, mais 3 ont en revanche été mis en examen, Jean-Luc Bougeon.
Oui, mis en examen pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Une personne placée sous contrôle judiciaire, alors pourtant que le parquet de Valence avait requis la détention provisoire. Le parquet a fait la même demande pour les 2 autres jeunes qui ont été présentés à un juge hier, alors que 2 autres gardes à vue se poursuivent et doivent prendre fin tout à l'heure. Des gardes à vue qui ont semble-t-il permis de savoir qui était présent à la salle des fêtes lors du bal de novembre dernier. En revanche, le meurtrier de Thomas n'aurait pas été identifié. En tout cas, aucun des gardés à vue n'a reconnu être l'auteur du coup de couteau mortel. Ce n'était d'ailleurs pas forcément le but, explique une source au sein de la gendarmerie. L'objectif était davantage de confronter les versions de chacun, de voir les éventuelles contradictions, afin que les enquêteurs puissent se faire une idée des circonstances du meurtre, circonstances qui restent encore floues à ce stade. Les 6 dernières personnes interpellées lundi ont elles été relâchées. La plupart ont pu prouver qu'elles n'étaient pas présentes à Crépol lors du bal tragique.
Jean-Luc Boujon pour Europe 1. La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, mise en examen pour diffamation à l'encontre de Noël Le Graët, l'ancien patron de la Fédération française de foot, avait porté plainte pour des propos sur sa gestion de la FFF. Il avait dû démissionner après la publication d'un rapport sur lequel, justement, avait rebondi celle qui a été de manière éphémère ministre de l'Éducation.
Avant de laisser sa place à Nicole Belloubet, contrainte de se plier à la fermeté de Gabriel Attal sur les groupes de niveau au collège.
Que la ministre avait un temps nuancé, elle a dû rester au second plan pour écouter le chef du gouvernement hier en déplacement dans un collège de Chartres. Il a bien confirmé la mise en place de ce dispositif en maths et en français, en 6e et en 5e à la rentrée prochaine, et ce malgré les fortes réticences des syndicats.
L'organisation actuelle du collège fait qu'entre la 6e et la 3e, les écarts en termes de niveau, en termes de difficultés entre les élèves, ne se résorbent pas. Probablement du fait d'une organisation qui ne permet pas véritablement de faire progresser le niveau de chacun. Le choc des savoirs vise précisément à répondre à cette situation-là. Maintenant, je le dis aussi, notre responsabilité, c'est de prendre des décisions, y compris en tenant compte parfois d'opposition. J'ai été ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Au moment où j'ai décidé d'interdire le port de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires, les organisations syndicales étaient opposées à cette décision. Plus personne ne la remet en cause aujourd'hui. Il n'y a plus d'abaya et plus de camis dans les établissements. Et je pourrais vous citer beaucoup de mesures auxquelles les organisations syndicales ont dit être opposées, le sont quand même assez régulièrement, mais des mesures que nous avons prises en responsabilité et dont nous n'avons absolument à aucun moment à en regretter le choix, parce que notre seule boussole, c'est la réussite des élèves et l'intérêt de l'école de la République.
Gabriel Attal qui évoquait l'interdiction récente de l'abaya à l'école. On est aujourd'hui 20 ans jour pour jour après la loi de 2004 sur le port des signes religieux à l'école. Europe 1 a retrouvé le proviseur de Creil qui avait interdit le foulard dans son établissement dès 1989. Témoignage à venir dans le journal de 7h30. Et puis le Conseil d'État demande à l'exécutif de se mettre en accord avec le droit européen. Et ça concerne vos congés. Si vous êtes salarié, vous pourrez bientôt en acquérir même quand vous êtes en arrêt maladie, mais ce, dans la limite de 4 semaines par an.
On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu faire une petite belote.
Y a-t-il meilleur endroit pour écouter du Boris Vian que son ancien appartement?
Ou un studio d'Europe 1, en tout cas pas sûr, mais c'est pour cela que le festival Paris Musique proposait hier ce concert insolite et enivrant, la chanteuse Aurélie Saada reprenant dans l'intimité de l'artiste des années 50 ses plus grands classiques devant une vingtaine de chanceux, Marie Jiquel.
Dans ce petit appartement niché au-dessus du Moulin Rouge, rien n'a changé depuis la mort de Boris Vian. Sa machine à écrire, son tourne-disque, ses diplômes d'ingénieur, les équerres qui vont avec.
Beaucoup de choses qui ont été créées par Boris sont encore là. Il y a toujours son atelier qui est au fond, à peu près dans l'état.
Cédric Vian, le petit-fils de ce poète bricoleur, garde les lieux qui accueillaient à l'époque, pour des soirées animées, le voisin de palier Jacques Prévert ou les copains de Jazzmen.
Pour nous, c'est l'idéal de recevoir justement des artistes qui viennent professer leur art au sein d'un endroit chargé de mémoire, de culture, probablement de notes.
Parmi ces artistes, la chanteuse Aurélie Saada.
Il n'avait pas de limite. C'est un type qui a fait Central et puis en même temps qui écrivait de la poésie, du jazz, des scénarios, des bouquins.
Vous avez joué sur son piano?
Bah oui. C'est pas fou ça?
Au programme de ce concert insolite, du jazz bien sûr, un peu de Gainsbourg, de quoi ravir un public chanceux et réveiller l'âme de Boris Vian.
Marie Jiquel et le festival Paris Musique, c'est jusqu'au 17 mars. Et puis un mot de football, tirage au sort des quarts de finale des Coupes d'Europe. Cet après-midi, on y retrouvera le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Marseille en Ligue Europa qui s'est qualifié malgré sa défaite 3-1 dans son match retour contre Villarreal.
Ils ont senti le vent du boulet les Marseillais
on
hier.
On a eu un petit peu peur, c'est vrai.
Petit scénario de remontada.
C'est vrai. Et on n'oublie pas Lille en Conférence Ligue qui a tenu son avance hier soir contre le Sturm Graz en faisant match nul un partout.
Et bien voilà, merci. Merci beaucoup, Victor Pourchet.
Trois clubs français en Europe, c'est beau ça quand même.
Pour une fois,
ça, c'est
surtout
les années,
surtout Marseille. Bon, après.
Merci Victor, on vous retrouve tout à l'heure.
Dans 10 minutes sur Europe 1, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.
Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour à tous.
Alors quel jour allons-nous revivre ce matin?
Quand Coluche était candidat à l'élection présidentielle en 1981.
Allez, à tout à l'heure, ce sera juste après l'invité actu d'Europe 1 matin. Nous allons parler des éoliennes, de leurs nuisances sonores avec l'expert en politique énergétique Fabien Bouglé. À tout de suite.
Bon réveil avec Europe 1, il est 7h09.
7h, 9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'expert en politique énergétique, Fabien Bouglé.
Bonjour Fabien Bouglé.
Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés aux questions énergétiques. Le dernier est paru l'an dernier, La guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. C'est paru aux éditions du Rocher. Alors vous êtes avec nous ce matin, Fabien Bouglé, parce que Europe 1 ouvre ce matin le dossier des nuisances sonores. Il se trouve qu'au quotidien, le bruit pollue la vie de millions de Français. Alors ça peut être un bar en bas de chez soi, un aéroport, mais aussi un parc éolien. Des centaines de milliers de Français ont dans leur périmètre de vie des mâts qui produisent donc de l'électricité, mais aussi énormément de bruit. Alors il se trouve qu'il y a quelques jours, le Conseil d'État a rendu une décision relative aux nuisances sonores de l'éolien. Cette décision du Conseil d'État, Fabien Bouglé, pourrait bien changer le rapport de force entre les riverains et les exploitants d'éoliennes. Pouvez-vous nous dire ce que contient cette décision ?
Oui, tout à fait, Dimitri Pavlenko. Il faut savoir, juste en préalable, que la pollution éolienne recèle en fait deux grandes pollutions. La pollution sonore, celle qu'on entend, et l'arrêt du Conseil d'État concerne la pollution que l'on entend, et les infrasons, c'est-à-dire les vibrations des éoliennes que l'on n'entend pas. Et la réglementation aujourd'hui sur la pollution sonore éolienne ne concerne que les bruits sonores, c'est-à-dire ceux qu'on entend, le vombrissement des pales d'éoliennes. Mmh. Et en fait, auparavant, il y avait un arrêté de 2011 qui organisait les limites de pollution éolienne et la façon d'évaluer ces sons.
La mesure des nuisances
et le seuil au-delà duquel on devait arrêter les éoliennes.
Alors Fabien Ferreri, c'était quoi cette
alors c'est 35 décibels, mais c'est toujours ces mêmes dispositions. 35 décibels, c'est le seuil au moment duquel on doit faire en sorte d'étudier le bruit. Et au-delà de 35 décibels, éoliennes comprises, on regarde avec la production d'éoliennes ou sans la production d'éoliennes. Quand c'est le jour, la différence doit être de 5 décibels. Quand c'est la nuit, de 3 décibels.
35 décibels, pour donner une idée, c'est le bruit de la rue quand on entend quand on est dans son bureau, par exemple.
Exactement. Voilà. Et on intègre ce bruit d'éolienne à ce bruit que l'on entend couramment.
Alors, le problème étant que quand on habite à côté d'une éolienne, un parc éolien, beaucoup de gens s'en plaignent, disant c'est vraiment perturbant, c'est gênant, ça, la nuit ça empêche de dormir. Et bien souvent on vous renvoie pas à votre imagination, mais on vous dit écoutez, je suis désolé, mais il y a des mesures qui sont faites et qui ne montrent pas une nuisance particulière.
C'est pour ça que Fabien Ferreri, à Échauffour, dans ce village d'irréductible normand, a utilisé les dispositions de l'arrêté de 2011 pour obtenir, et il a obtenu en 2021, la première décision majeure d'arrêt des éoliennes la nuit, parce que effectivement, les éoliennes d'Échauffour, et moi je suis allé à Échauffour dans une réunion publique et j'ai vu les éoliennes, et bien ces éoliennes d'Échauffour produisaient un bruit vraiment important de nuisance. Alors, je rappelle que les éoliennes d'Échauffour sont portées par Voltaïa de la famille Muliez, et donc
on va juste préciser, Échauffour, donc petit village de l'Orne, Fabien Ferreri président le comité des riverains.
Échauffour Environnement.
Exactement, voilà, et lui a derrière chez lui un parc éolien un tout petit peu plus de 500 mètres.
C'est ça, exactement.
Et donc c'est insupportable au quotidien.
Voilà, et il obtient du sous-préfet en 2021 l'arrêt des éoliennes la nuit, ce qui est effectivement beaucoup plus apaisant pour la population locale qui voit son cadre de vie s'améliorer du fait de l'arrêt de ces éoliennes. Je rappelle que d'ailleurs, il y avait un éleveur de chevaux qui avait perdu 5 chevaux depuis l'installation de ces éoliennes. Et en réaction...
Il y avait un lien entre la mort des chevaux et les éoliennes ?
On ne sait pas, mais vous savez, il y a eu ces vaches en Pays de Loire, donc tout état de cause...
Il y a un soupçon.
Il y a une liaison, puisque c'est à partir du moment où les éoliennes ont été mises en place que ces chevaux...
Il n'y a pas forcément de corrélation, mais il y a une coïncidence.
Voilà, exactement. Et il y a l'arrêt, et du coup, la filière éolienne demande à changer finalement les protocoles de mesure, parce que si la réglementation sur les sons reste le même, 35 décibels, différence de 5 décibels le jour et 3 décibels la nuit, la façon de calculer et d'évaluer ces sons peut avoir une importance majeure. Et donc en 2021, sous la dictée de la filière éolienne, le gouvernement a modifié...
On est
habitué avec la filière éolienne, et on a des éléments de preuve de lobbying à l'Assemblée nationale récemment lors de la loi d'accélération du renouvelable. Très régulièrement, il y a la main de la filière éolienne derrière les écrits du gouvernement. Mais ça, c'est presque affiché. Je veux dire, on a de manière régulière ces points-là.
Donc vous dites en 2021, ce qui se passe, c'est que l'on change la méthode de mesure du bruit à l'avantage des exploitants d'éoliennes.
Exactement.
Et patatras pour les opposants ces éoliennes, ceux qui demandent en tout cas qu'on encadre le bruit.
Et de ce fait, les éoliennes des chauffe-eau sont remises en place par le préfet la nuit, et les nuisances repartent pour les habitants qui subissent, qui sont victimes de cette pollution éolienne. Voilà. Et donc, pour contrer cette modification réglementaire plutôt, eh bien, Fabien Ferreri et un consortium, une réunion de nombreuses associations, sont allés agir au Conseil d'État pour demander l'annulation de cette réglementation et de s'arrêter qui bénéficiait aux exploitants éoliens.
Et ils ont donc obtenu gain de cause.
Et le Conseil d'État a totalement annulé l'intégralité des trains de mesures qui avaient été prises sur ces dispositions de pollution sonore.
Mais ça va changer quoi concrètement pour
Ça change qu'on revient à la situation antérieure qui avait fait jurisprudence avec Fabien Ferreri.
C'est-à-dire permis l'arrêt des éoliennes pendant 6 mois.
Permis l'arrêt des éoliennes, ça veut dire que concrètement, on va avoir l'ancien régime, ce régime qui avait permis à Fabien Ferreri d'obtenir l'arrêt des éoliennes la nuit. Ça veut dire que concrètement, partout là où il y a des éoliennes qui dépassent les seuils selon les anciens protocoles, ça doit être arrêté par les préfets. Ça veut dire que pour l'installation des nouvelles éoliennes, il va falloir que les éoliennes répondent à des enjeux d'études environnementales qui intègrent la dimension des sons avec l'ancien protocole. Donc c'est une grande victoire des victimes à la pollution éolienne.
Alors évidemment, les exploitants d'éoliennes ne sont pas très contents et ils disent, encore un ralentissement de la transition énergétique auquel finalement les riverains de ces parcs éoliens vont contribuer. On est toujours dans ce débat, Fabien Bouglé, où on se dit, d'un côté, on veut la souveraineté énergétique. On a des éoliennes qui produisent une énergie, je mets entre guillemets, propre. Des énergies aussi, des parcs éoliens qui font baisser les impôts locaux. Dans les communes, on les implante, etc. Ouais. etc.
Enfin, ils font monter la facture d'électricité. Hier, RTE a annoncé 100 milliards d'euros de coûts supplémentaires de raccordement pour ces éoliennes. Enedis, 100 milliards. Récemment, il y a une enquête...
C'est quoi ces 100 milliards d'euros?
100 milliards, c'est le raccordement, 100 milliards, c'est la distribution. Enedis, ça fait 200 milliards à ajouter aux 150 milliards de subventions des éoliennes. On en est à 350 milliards pour 1,5% du mix énergétique primaire consommé en France. Alors, plus que de transition énergétique, je parlerai de trahison énergétique. Aucune des éoliennes ne sont produites en France. Elles sont en Allemagne ou en Chine. Les panneaux solaires, ils sont fabriqués essentiellement en Chine. Il n'y a pas de souveraineté énergétique dans ces éoliennes. Donc on a d'un côté des éoliennes qui détruisent le cadre de vie de nos concitoyens, qui conduisent à une pollution sonore absolument épouvantable, et en même temps qui contribuent à l'augmentation de la facture d'électricité des Français. C'est donc une double peine. C'est la double peine des Français. Vous subissez les nuisances, vous subissez les éoliennes, ça n'assure pas la sécurité énergétique, et je l'ai écrit dans mon livre « Guerre de l'énergie » au cœur du nouveau conflit mondial. C'est même, je dirais, une arme énergétique contre la France, puisqu'on est obligé de prendre du gaz naturel liquéfié américain pour compenser lorsque les éoliennes ne tournent pas. Et en même temps, les Français, dans les littoraux français, sur les côtes françaises, dans les territoires, subissent, je rappelle Dimitri Plavenko, qu'on a une distance minimale de 500 mètres des habitations, alors que les éoliennes ont été multipliées par 2 et qu'on arrive à des éoliennes de 220 mètres de haut. Non, je crois que plutôt, là, on est véritablement dans une arme contre la ruralité et contre les Français. Les éoliennes sont une arme aujourd'hui contre les Français.
Eh bien, on vous a entendu ce matin, Fabien Bouglé, et on vous lira, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. C'est paru aux éditions du Rocher. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Hein. Bonne journée.
Au revoir.
Europe 1.
Vous connaissez le podcast au cœur de l'histoire que vous êtes nombreux à écouter. Eh bien, ne manquez pas l'émission tous les week-ends sur l'antenne d'Europe 1.
Oui, c'est tous les samedis, tous les dimanches, 15h-16h. Partez à la rencontre de figures inspirantes de l'histoire avec Virginie Giraud. Alors le programme de ce week-end, demain, deux saintes de l'histoire, Sainte Thérèse de Lisieux, l'une des religieuses les plus célèbres du 19e siècle, et Hildegarde de Bingen, une sainte guérisseuse au Moyen-Âge. Et dimanche, Virginie Giraud vous raconte le destin des œuvres d'art pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cœur de l'histoire, soir, tous les samedis, tous les dimanches, de 15h à 16h, et quand vous voulez, en podcast sur Europe1.fr.
Bon réveil avec Europe 1, l'essentiel de l'actualité à 7h21, le journal permanent Victor Porcher.
L'avertissement d'Emmanuel Macron hier soir, si l'Ukraine tombe, notre sécurité est menacée. Le chef de l'État maintient qu'il n'exclut rien pour aider Kiev face à la Russie, mais la France ne sera jamais à l'offensive, précise le président. Des attaques de drones repoussées ce matin de part et d'autre du front, côté russe et côté ukrainien, des assauts aériens, alors que les bureaux de vote vont ouvrir aujourd'hui pour tout le week-end en Russie, élection présidentielle pour laquelle la victoire de Vladimir Poutine ne fait aucun doute. Et puis les députés français ont voté d'une même voix pour mettre un frein à la fast fashion, le nom donné à ces vêtements à prix cassé mais de mauvaise qualité. Parmi les mesures, un malus de 50% en plus sur le prix de vente en dessous de 10 euros et l'interdiction de faire de la publicité pour ces produits.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h22 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où...
Le 15 mars 1981, coup de théâtre. À 6 semaines du premier tour de l'élection présidentielle en France, Coluche annonce qu'il retire sa candidature. Et ce qui avait commencé comme une grosse blague était en effet en train de devenir, lors d'Autriche, quelque chose d'énorme.
Oui, Coluche annonce sa candidature le 30 octobre 1980 au théâtre du Gymnase à Paris, plutôt sur le ton de la blague d'ailleurs. Il se présente comme le bouffon de l'élection, le candidat nul comme il dit, mais il va être crédité de 10% des intentions de vote au début de l'année 1981.
Moi je suis là pour faire marrer, il se trouve que je fais peur surtout aux hommes politiques, je suis ravi parce que évidemment, se met la merde, ça m'ennuie jamais. Et puis je crois que c'est utile, il y a une fonction quoi, si vous voulez, dans l'État qui est celui qui est contre l'État.
Coluche veut aussi toucher les abstentionnistes, ceux qui ne votent pas d'habitude parce qu'ils ne se sentent pas représentés politiquement. Et sa campagne prend. 600 maires proposent même spontanément de lui apporter leur signature, comme le maire de Blotzheim en Alsace.
Moi, je cherche quelqu'un pour inaugurer notre palais Beaubourg.
Vous seriez prêt donc à parrainer Coluche s'il acceptait d'inaugurer votre salle?
S'il accepterait de venir gratuitement, c'est sûr.
Et face aux deux candidats principaux, le président sortant Valéry Giscard d'Estaing et le socialiste François Mitterrand, Coluche comprend qu'il peut peser sur l'élection, comme il le raconte dans ce sketch.
Je me dis que peut-être au deuxième tour, un de ces deux aura besoin de mes voix. Et que je pourrais lui négocier contre, je sais pas quoi, des points de détail qui amélioreraient le sort de la vie des gens, comme un petit peu moins de répression dans les rapports entre l'État et le public, des choses comme ça.
Valéry Giscard d'Estaing est persuadé alors de rempiler pour un nouveau septennat. Coluche retire finalement sa candidature le 15 mars 81, mais il appelle à ne pas voter pour Giscard.
Moi je demande l'asile politique à la Belgique s'il est réélu Giscard d'Estaing.
Et c'est finalement François Mitterrand qui sera élu avec 51% des voix.
Merci Laure d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidis. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où...
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et c'est déjà le dernier jour pour tenter de gagner le beau cadeau que vous offre Europe 1 toute cette semaine. Un week-end pour deux dans un casino, hôtel, partout, vous allez pouvoir... vous reposer, être zen, tout oublier pendant deux soirées dans l'un des casinos hôtels partouche de votre choix, soit à Forges-les-Eaux, Contrexéville, Aix-en-Provence, Sierre, Divonne-les-Bains ou encore Le Havre. Des animations sur place pour vous, 30 euros de crédit de jeu, un repas au restaurant et deux nuits à l'hôtel du casino. Vous pouvez déjà faire votre choix sur le www.partouche.com.
Alors la question du jour, la voici. Où a lieu le lancement de la campagne de Coluche en octobre 81? Était-ce au théâtre du Gymnase ou bien au Splendide?
Alors n'hésitez plus, c'est aujourd'hui qu'il faut jouer pour tenter votre chance. Dernier jour, dernière chance pour vous en envoyant casino par SMS au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu dans la journée. Bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h10, Franz-Olivier Gisbert sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Le journaliste à hebdomadaire Le Point, dans son dernier édito, Fox s'inquiète de voir, je le cite, « notre cher et vieux pays comme dans un creux de l'histoire, au milieu d'un carrefour vers lequel convergent 4 convois exceptionnels dont les freins ont lâché, la dette, l'immigration, la chute de leur autorité et la fringale territoriale de Vladimir Poutine. » Rendez-vous dans 3 quarts d'heure.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Le temps, Anissa Haddadi, eh bien, c'est le retour de la pluie ce vendredi sur presque tout le pays. Hein.
Oui, c'est vrai qu'hier, on a vécu une très belle journée. Alors aujourd'hui, ça va changer. On retrouve des conditions humides avec cette perturbation qui est arrivée par la Bretagne qui arrose ce matin les pays de la Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, des petites averses. Et puis, au fil des heures, c'est vraiment toute la moitié nord qui va être concernée par cette perturbation. Alors, c'est vraiment une perturbation de printemps. C'est-à-dire que nous avons des pluies intermittentes, des averses qui vont s'enchaîner les unes aux autres sous forme de giboulées. En fait, ce sont des orages qui vont s'enchaîner les uns aux autres avec du grésil localement, des rafales de vent jusqu'à 60 km/h, par exemple en région parisienne. Toute la moitié nord est concernée, ça va un peu mieux dans le sud. Dans le sud, on a des averses sur les Pyrénées, de la neige de retour dans les Alpes et puis sur le pourtour méditerranéen, là, on a un ciel très agréable avec une ambiance printanière. Les températures en légère baisse par rapport à hier. 13 degrés à Charleville-Mézières et Dunkerque cet après-midi, 14 à Lorient, 15 à Nice, Lille et Orléans, 16 à Paris, 18 pour Biarritz, Toulouse et Bordeaux et 21 à Perpignan.
Merci Anissa Haddadi. Tout de suite, un nouveau journal sur Europe 1.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Bon réveil à vous, il est 7h30 à la une de l'actualité ce matin. La loi sur les signes religieux à l'école, c'était il y a 20 ans. Est-elle vraiment respectée? La laïcité est-elle plus que jamais menacée? Comme l'a encore affirmé Gabriel Attal, Europe 1 est allé à la rencontre d'Ernest Chénière. C'est le proviseur qui a fait face aux premières élèves voilées à Creil dans l'Oise en 1989. Rencontre dans un instant. Ce reportage Europe 1 à Nice également, où le lycée privé musulman Avicenne doit fermer ses portes en cause des financements opaques de puissances étrangères. Nous reviendrons également sur les déclarations d'Emmanuel Macron à la télévision. Hier soir, jugé va-t-en-guerre par les oppositions, le président reste droit dans ses bottes et n'écarte toujours pas l'envoi de troupes en Ukraine. Et puis nous parlerons rugby avec, à suivre ce week-end, le crunch France-Angleterre. C'est demain en tournoi des 6 nations de rugby. Le journal de 7h30 sur Europe 1. Nina Pavan, bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous allons remonter le temps ce matin sur Europe 1 à l'occasion des 20 ans de la loi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école, promulguée en 2004. Et alors qu'aujourd'hui, la laïcité est plus menacée que jamais selon le Premier ministre Gabriel Attal. Cette loi avait pourtant comme objectif de clarifier la notion de laïcité, en particulier vis-à-vis du voile islamique. Après 15 ans de débat et la tentative de trois lycéennes musulmanes de Creil dans l'Oise d'entrer à l'école voilée. À l'époque, en 1989, le principal Ernest Chénière leur interdit l'accès en cours. Malgré les menaces et le manque de volonté politique pour trancher le débat, il tient bon. Et pour Europe 1, cet ancien chef d'établissement de 89 ans s'est replongé dans ses souvenirs au micro de Louis Salé.
C'est une affiche qui avait été posée pour me soutenir, parce que moi j'ai été attaqué de partout.
Ernest Chénière conserve de son passage à Creil une malle au fond de sa cave, remplie d'affiches, de coupures de presse et de lettres d'enseignants qui saluent son courage.
C'est toute la France qui était vraiment émue de cette affaire.
Il se souvient de cette rentrée de septembre 1989.
C'est au bout de quelques semaines qu'il y a trois filles qui arrivent voilées. J'ai convoqué les trois jeunes filles, donc j'étais dans mon rôle, je leur ai expliqué. L'établissement est un établissement laïque. Au retour des vacances qui suivaient, elles sont venues avec leur voile, bien déterminées à s'engager dans un affrontement dur. J'en ai fait part à la hiérarchie. Le ministre, c'était Jospin à l'époque, m'a envoyé un courrier disant qu'il fallait ramener le calme et la paix de tout ça. Mais c'était en fait exercer une pression sur moi.
Un soir, alors qu'il promène sa chienne, il se fait agresser.
J'ai échappé à la mort. Vous oubliez pas des choses comme ça. Ça a pris 3 mois, cette affaire-là.
Et c'est le roi du Maroc qui y met fin. Il convainc en personne les familles de renoncer à ce bras de fer. Mais les contentieux ensuite sur le voile se multiplient en France jusqu'à la clarification de la loi en 2004.
Louis Salé pour Europe 1 a noté que 78% des Français considèrent, comme le Premier ministre, que la laïcité est menacée en France, selon un sondage publié cette semaine dans le Figaro.
Nous partons à Nice, où le lycée privé musulman hors contrat Avicenne ne rouvrira pas ses portes à la rentrée de septembre.
Le préfet des Alpes-Maritimes vient de prononcer sa fermeture administrative. Implanté dans le quartier populaire de l'Ariane, l'établissement est dans le viseur des autorités pour des financements opaques. La direction n'a pas communiqué sur l'origine de ses ressources financières malgré les relances. Le reportage de Frédéric Michel pour Europe 1.
À la fin de l'année scolaire, l'établissement devrait fermer ses portes. Devrait, car la décision va sans doute être contestée devant le tribunal administratif. 99 enfants répartis dans 4 classes allant de la 6e à la 3e vont peut-être devoir changer d'école. Le rectorat accompagnera les familles. L'enseignement dispensé n'est pas remis en cause. C'est le financement du collège qui pose problème. L'association qui en a la gestion est restée très floue sur la provenance des ressources, malgré les demandes répétées d'éclaircissement. Des dons imprécis et intraçables réalisés par carte bancaire, par virement ou par prélèvement automatique. La préfecture évoque aussi des présuspects. Ce père de famille qui habite le quartier de l'Ariane s'interroge.
Il y a tout le quartier qui a financé dessus. Il y a des personnes qui se sont investies financièrement et physiquement. Si c'est réellement c'est un fonds externe, l'Arabie Saoudite ou l'Algérie ou le Maroc, non. Moi je suis contre. Faudra voir à la fin. Est-ce que c'est vraiment financier ou alors c'est vraiment dû par rapport à un problème religieux? Si c'est un prétexte pour fermer toutes les écoles musulmanes, où est la liberté?
Et le procureur de la République de Nice a été saisi du dossier.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 à Nice. Nouveau scandale dans une école privée catholique. Le directeur de l'établissement Sainte-Marie à Levallois est mis en examen pour exhibition sexuelle. Surpris mercredi soir en train de se masturber dans la cour en pleine nuit, il a été interpellé dans son bureau avec une seringue et des sextoys. Il a reconnu se droguer.
7h34 sur Europe 1. La guerre en Ukraine est existentielle pour l'Europe. La déclaration hier soir du président de la République.
Emmanuel Macron, interviewé à la télévision, a réaffirmé que rien n'est exclu pour garantir la défaite de la Russie en Ukraine, y compris l'envoi de troupes. Des déclarations qui ne plaisent pas du tout à l'Allemagne. Le président de la République est d'ailleurs attendu aujourd'hui à Berlin pour rencontrer le chancelier Olaf Scholz et tenter d'apaiser les relations du couple franco-allemand sur cette question.
Le chef de l'État qui est également revenu hier soir sur la situation à Gaza.
Les tractations pour un accord de trêve se poursuivent entre Israël et le Hamas sous l'égide du Qatar et des États-Unis. 3 Français sont toujours aux mains des terroristes depuis le 7 octobre. On écoute le président de la République.
Nous nous sommes beaucoup battus avec le Qatar et l'Égypte en particulier pour obtenir la libération de nos otages qui ont été libérés ces derniers mois. Nous avons encore en effet 3 otages. Je ne dirai rien ce soir et vous le comprendrez. Les discussions sont en cours, seules les familles sont informées. Les discussions sont en cours. Nous mettons beaucoup d'énergie et je veux remercier les partenaires que je citais et j'espère vraiment que nous obtiendrons ces libérations. C'est pour nous essentiel et je souhaite qu'au-delà des otages français, tous les otages israéliens et du monde entier soient libérés parce que c'est une pratique inadmissible et des vies brisées et confisquées.
Emmanuel Macron est toujours au Proche-Orient. Le président de l'autorité palestinienne vient de nommer son nouveau premier ministre, un proche, Mohamed Moustapha, économiste. Il succède à Mohamed Chtayef, démissionnaire fin février, nomination saluée par Washington qui réclame des réformes.
7h36 sur Europe 1. Est-ce que la nuit a été difficile pour vos enfants?
2% des enfants, même les plus petits, sont concernés par des apnées du sommeil. C'est le constat que fait la Fédération française d'orthodontie. Alors quels sont les symptômes, les causes, mais surtout les solutions, les précisions de Mélanie Gomez pour Europe 1.
Consulter le plus rapidement possible, c'est le message principal de ces médecins face à un enfant qui fait des apnées du sommeil. Mais encore faut-il savoir si le vôtre est concerné. Pour cela, il suffit d'un peu d'observation, explique le chirurgien-dentiste Jean-Baptiste Kerbras.
Il y a un bon signe qui est le signe du rétroviseur. Quand vous êtes en voiture, souvent vos enfants dorment à l'arrière. Si dans le siège auto, il a une hyperextension de la tête pour essayer de trouver de l'air et qu'il ronfle, là il faut consulter.
Ce syndrome apparaît souvent pour des raisons morphologiques. La langue et les amygdales sont parfois imposantes, comparées à la taille des mâchoires, ce qui empêche le passage de l'air. Heureusement, des solutions existent.
C'est d'agrandir la mâchoire du haut et la mâchoire du bas pour qu'il y ait le maximum de place pour la langue. Vers 11-12 ans, les os se soudent. Mais si on les voit beaucoup plus jeunes, à partir de 4-5 ans, on peut tout à fait faire des thérapeutiques orthodontiques et si on fait de la place plus tôt, il repart sur une croissance normale.
Un traitement important car les apnées du sommeil peuvent impacter la croissance et le développement cérébral de l'enfant. Donc au moindre doute, n'hésitez pas à consulter un orthodontiste ou à demander conseil à votre médecin.
Mélanie Gomez, on passe au sport. Demain, 21h, du rugby à suivre et pas n'importe quel match. Le crunch France-Angleterre. Ce sera le dernier match des Bleus pour le tournoi des Six Nations. Un duel entre les meilleurs ennemis que les joueurs n'oublie jamais, Cédric Chasseur.
Oui, c'est en tout cas ce que croit William Servat, l'entraîneur en charge de la conquête et des tâches spécifiques, qui a connu des crunchs en tant que joueur et persuadé que ce match est encore dans un coin de la tête des Anglais.
On se souvient toujours
des matchs que l'on a joués. Et je pense que le surplus de motivation côté anglais sera tout trouvé. Même si pour nous, ce match-là est un match du passé. Il y a un bon nombre de personnes, pour ne citer que le staff, qui n'ont jamais joué l'Angleterre.
Les nouveaux venus qui vont découvrir une équipe anglaise en plein renouveau, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde et qui vient de battre, excusez du peu, l'Irlande, pourtant promise à un nouveau grand chelem. D'où la méfiance du sélectionneur Fabien Galthié.
On retrouve une équipe anglaise explosive, puissante, solide, une équipe en pleine confiance qui est en train de redevenir la grande équipe d'Angleterre.
C'est donc un défi de taille qui attend la troupe de Fabien Galthié, le sélectionneur qui a fait le choix de reconduire les 23 vainqueurs de Cardiff pour affronter l'Angleterre.
Cédric Chasseur pour Europe 1.
Merci beaucoup Nina Pavan, c'était votre journal. Allez, dans un instant, on va parler de cette menace émergente des djihadistes de 11, 12, 13 ans à peine, encore enfants et déjà radicalisés, mais d'une manière, vous allez l'entendre, très différente de leurs aînés. L'enquête du spécialiste sécurité et défense d'Europe 1, William Molinier, c'est à suivre dans quelques instants.
Très bon réveil avec Europe 1, il est 8h20.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
7h42 sur Europe 1, très bon début de journée. Merci d'avoir choisi Europe 1 Matin pour vous réveiller. Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique avec Vincent Trémollet de Villers. On va parler de la performance scénique d'Emmanuel Macron hier pour sa grande explication à la télévision à propos de l'Ukraine. Performance scénique, le regard du metteur en scène quelque part. Le Club Culture d'Europe 1 Matin arrive aussi dans un instant. On va voir les sorties musicales de la semaine avec Omblin Roche. Bonjour Omblin.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors qu'est-ce qu'on écoute cette semaine?
Le retour du chanteur Kali pour fêter les 20 ans de son album L'Amour Parfait.
Allez, à tout de suite. Nicolas Caro, le livre du jour vendredi, c'est classique. Et donc,
une bande dessinée, une fois n'est pas coutume, mais c'est l'adaptation d'un roman de Simenon.
Ah, à tout de suite. Mais d'abord, comme tous les vendredis à 7h40 sur Europe 1, la chronique de la rédaction consacrée ce matin à ces tout jeunes adolescents, presque encore des enfants, qui rêvent de mourir en martyrs du djihad. Bonjour William Molinier.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
William, dimanche dernier, dans le journal du dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin évoquait des enfants de 11, 12 et 13 ans, susceptibles de participer à des attentats terroristes. C'est très jeune, mais les services de renseignement français constatent bel et bien l'émergence d'une nouvelle génération de djihadistes particulièrement précoces.
Oui, les chiffres que je me suis procurés sont particulièrement inquiétants. La moitié des islamistes mis en cause dans des attentats déjoués depuis 2021 ont moins de 20 ans. Rien que l'année dernière, 15 mineurs ont été mis en examen pour des faits de terrorisme. 12 d'entre eux sont directement impliqués dans des projets d'action violente djihadistes. On voit bien qu'il y a là une accélération de ce rajeunissement. C'est inquiétant aussi parce que les modes opératoires de ces jeunes sont de plus en plus aboutis. Parfois, ils vont jusqu'à se procurer des armes sur internet, voire confectionner eux-mêmes des explosifs, comme en septembre dernier à Joué-lès-Tours en Indre-et-Loire. D'autres mineurs envisageaient de viser l'ambassade d'Israël à Bruxelles ou un influenceur chrétien sur TikTok. La semaine dernière, 3 nouveaux mineurs ont été mis en examen à Paris. Ils sont soupçonnés d'être entrés en contact avec une cellule belge qui projetait un attentat contre une salle de spectacle à Bruxelles.
Alors William, quel est le profil de ces enfants 11, 12, 13 ans. Comment est-ce possible une radicalisation si jeunes?
Eh bien parce que la radicalisation de ces jeunes suit un mouvement bien plus large de la société. Internet, les réseaux sociaux, tous sont rompus à leurs usages. Les services de renseignement dégagent 3 types de profils. D'abord, les plus isolés, ceux qui entretiennent des liens uniquement virtuels entre eux. Ensuite, ceux qui sont scolarisés et qui achèvent leur radicalisation en consultant de la propagande en ligne. Et dernier public, très perméable aux thèses islamistes, les mineurs qui souffrent de troubles du comportement, particulièrement les adolescents mal dans leur peau qui trouvent des réponses dans la radicalisation.
Alors, autre question qu'on peut se poser, William, le rôle des djihadistes de la génération Mera, c'est les aînés en quelque sorte, quel rôle joue-t-il auprès de ces mineurs? Est-ce qu'il les encadre?
Non, pas vraiment, et c'est ce qui est particulier avec cette nouvelle vague. Ils semblent, selon plusieurs sources du renseignement, s'affranchir de leurs aînés, les vétérans du djihad. Ils ne cherchent pas à faire allégeance à Daesh ou à Al-Qaïda, ni à rejoindre telle ou telle organisation terroriste. Ce ne sont pas non plus des adolescents qui vont prier clandestinement dans les caves des cités, non. Ces jeunes trouvent Allah principalement derrière leur ordinateur ou leur téléphone portable.
Et qu'est-ce qui les motive réellement, William ?
Eh bien, ce sont surtout les sujets communautaires et les thèses selon lesquelles l'État français serait islamophobe. Exemple, la fermeture des établissements scolaires musulmans à Véroès à Lille ou à Vicennes à Nice, l'interdiction du voile intégral ou encore les déclarations de soutien de Paris à Tel Aviv après l'attaque du Hamas le 7 octobre. Tout cela leur est insupportable. En fait, ces jeunes mineurs islamistes sont très réceptifs aux théories véhiculées par les frères musulmans. Vous savez, ce mouvement islamiste qui veut imposer un califat partout dans le monde. Et pour y parvenir, ils s'habillent publiquement d'une parure de légalité pour se rendre fréquentables, alors qu'en privé, les frères musulmans soutiennent et appuient les thèses djihadistes. Eh bien, ce double discours, c'est le carburant préféré de ces jeunes âmes mineures. Enquête d'identité.
L'enquête du spécialiste sécurité défense d'Europe 1, William Molinier. Merci beaucoup William, il est
7h46. 7h-9h, Europe 1 Matin.
Le livre du jour, Nicolas Carreau, le vendredi, c'est toujours un classique ou un roman culte. Alors ce matin, vous nous parlez de Georges Simenon, mais pas de son commissaire Maigret.
Mais oui, c'est ce qu'on appelle un roman dur de Simenon, ceux qui ne sont pas des Maigret, en gros. Ça fait chic toujours de dire qu'on préfère les romans durs de Simenon plutôt que les Maigret. Alors que bon, en fait, ça n'a rien à voir, c'est simplement très différent. Quoi qu'il en soit, chez Dargaud, Fromental et Isler ont adapté en bande dessinée l'un de ces romans-là, La neige était sale.
Vous voyez la couverture sur Europe 1.fr, c'est très sombre. Hein.
Oui, la nuit, sous la neige, en ville, un jeune homme armé d'un pistolet discute avec une jeune femme à côté d'une sorte de colonne Maurice sur laquelle on voit une sorte de nazi, mais avec un symbole différent qu'une croix gammée sur le casque. Mais on a compris, c'est une forme d'occupation. Dans ce contexte, on suit le jeune Frank Friedmeier. Il vit dans un bordel tenu par sa mère. Il patauge dans cet univers très glauque et surtout, il ne fait rien. C'est un feignant, un vrai impur, un glandeur de première classe. Mais le pire, ce sont ses fréquentations. Des marlous, des voleurs, des sales types, des voyous. Un jour, l'un d'entre eux, Fred, qui traficote des montres, l'incite à tuer un occupant, un officier. Pas comme acte de résistance, mais pour lui piquer son revolver.
Oula, c'est dangereux ça.
Et oui, et la spirale l'entraîne et on se doute que ça va très mal finir. Alors il y a Sissi quand même qui habite le quartier, ils sont amoureux tous les deux, il pourrait y avoir du beau dans cette relation. Mmh. Mais là encore, il fout tout en l'air, je vous raconte pas comment. Publié en 48, il n'y a pas que la neige qui est sale dans ce roman, c'est dérangeant, c'est poisseux, mais c'est très fort. Et la bande dessinée retranscrit bien cette ambiance sombre avec quelques petites notes colorées, mais presque pas, comme si la couleur peinait à advenir. Dans ce marasme et ces ténèbres, c'est une lecture intense.
Voilà, Georges Simenon, La neige était sale, l'adaptation en bande dessinée par Fromental et Isler. Merci Nicolas Carreau, qu'on va retrouver ce week-end dimanche dans La Voix et Livre, 19h-20h, vos invités.
Alors Nicolas Rey et puis la bibliothèque de Nikos Aliagas.
Ouais. Nicolas Rey, dont vous nous avez parlé cette semaine, hein, avec cette histoire de médecin qui diagnostique une syphilis imaginaire. Voilà,
pour faire exploser sa patiente. Voilà.
Sympa.
Et la faire divorcer.
Quel machiavélisme. Allez, la musique à présent. Blin Roche, la chanteur Kali célèbre cette semaine les 20 ans de son premier album.
Oui, L'amour parfait sorti en 2003 lui a ouvert les bras de la vie. Ce sont ces mots. Kali est accompagnée de 13 artistes pour reprendre les 13 chansons qui l'ont fait passer des balles de village près de Perpignan aux plus grandes scènes. Ici, Kali avec Calogero.
Elle m'a dit, je crois que je ne t'aime plus. Relève-toi, relève-toi, ne te mouche pas dans ma robe, pas cette fois. Relève-toi, tu n'as plus d'odeur, tes lèvres sont le marbre de la tombe de notre amour. Elle m'a dit ça, son sang était froid. Quand je fais l'amour avec toi, je pense à lui. Quand je fais l'amour avec lui, je ne pense plus à toi. La la la.
Voilà Calogero pour reprendre Elle m'a dit, qui accompagne Kali également.
Francis Cabrel, Stéphane Echer, Adamo, Peter Kingsbury du groupe Cock Robin. C'est plutôt improbable.
C'est
et
vrai.
Ils ne se sont pas contentés de poser leur voix. Les chansons sont réorchestrées, elles sont réarrangées, repensées. Kali était sur Europe 1 hier dans Culture Média avec Thomas Hill et il expliquait, on a vraiment travaillé les choses et je leur ai dit, c'est votre chanson, moi je suis l'invité, vous les capitaines. Des reprises avec beaucoup de poésie, de douceur et d'humour aussi quand ils chantent Le Grand Jour avec Benabar.
Alors, ça y est, c'est le grand jour, tu t'en vas, je te raccompagne jusqu'à la porte, tu t'en vas. Regarde, tu as devant toi un grand seigneur au cœur léger. Il a à nouveau envie de tout, sauf de te faire changer de projet. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles de te voir déguerpir ma vieille.
Voilà, ça n'a jamais l'air très grave pour ces Benabar qui chantent.
C'est vrai. Chanson de rupture avec ce ton grinçant jubilatoire. Il y a 20 ans, on a vu débarquer le nouvel écorché vif de la chanson française, le Kali Punk a mûri, la voix a changé. 20 ans d'amour parfait sort aujourd'hui et Kali est en tournée dans toute la France.
Il y a du monde également autour de Mark Knopfler, le légendaire guitariste de Dire Straits, qui dévoile un nouveau titre caritatif.
Oui, une reprise de son instrumental légendaire Going Home, enregistré en 1983 en marge de son groupe Dire Straits. C'était c'était pour le film Local Hero avec Burt Lancaster. Marc Knopfler a réuni 60 artistes. Accrochez-vous, hein, Bruce Springsteen, oh là là. David Gilmour de Pink Floyd, Eric Clapton, Sting, Ringo Starr, il y en a tellement. Un super groupe, il y a Slash aussi.
On va s'amuser à reconnaître chaque guitare.
Voilà.
J'ai reconnu Marc Knopfler.
Marc Knopfler, on le reconnaît bien. Ce super groupe baptisé Guitar Heroes, les bénéfices des ventes seront reversés à une association qui lutte contre le cancer des enfants et des adolescents au Royaume-Uni et aux États-Unis. CD et vinyle disponibles depuis ce matin. Je vous rappelle que le nouvel album de Marc Knopfler, One Deep River, sortira le 12 avril.
Ah, ça, on l'entendra sur Europe 1, évidemment. Hein. Le dernier titre de Guitar Heroes, donc le super groupe. Ouais, c'est pas mal, hein. Et quand il y a beaucoup de guitares, c'est pas facile d'arriver à rester cohérent. Merci beaucoup, Blin Roche, la musique, le livre, Nicolas Caro. Bon week-end à tous les deux. Dans un instant sur Europe 1, votre édito politique avec Vincent Trémollet de Villers, juste après le journal permanent. Nina Pavant.
Emmanuel Macron ne prépare pas la paix, dénonce Jean-Luc Mélenchon. Réaction du leader insoumis après les déclarations hier soir du président de la République à la télévision. Le chef de l'État persiste et signe. On ne peut rien exclure pour empêcher la Russie de gagner, y compris l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Cette guerre, Emmanuel Macron va devoir en rediscuter aujourd'hui avec le chancelier allemand Olaf Scholz, visite à Berlin pour apaiser les relations du couple franco-allemand. Qualification au forceps pour l'OM hier soir, les Marseillais filent en quart de finale de la Ligue Europa malgré une défaite 3-1 face au Villarreal, grâce au nombre de points engrangés après leur victoire 4-0 à l'aller. Et puis ce soir, la 26e journée de Ligue 1, Toulouse reçoit Lyon, coup d'envoi à 21h.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Vincent.
Vincent, hier soir, Emmanuel Macron était l'invité de TF1 et France 2 pour exposer aux Français sa vision de la situation en Ukraine. Intervention empreinte de gravité, habitée d'un grand souci de pédagogie également. Le président, Vincent, vous a-t-il convaincu ?
Si j'ai bien compris la pensée complexe d'Emmanuel Macron, il s'agissait de nous expliquer que nous n'avions pas compris ce qu'il avait dit sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine, et que d'ailleurs il n'avait rien dit de tel, et qu'il était volontairement flou, mais compte tenu de la situation, il avait raison de l'avoir dit, et que d'ailleurs, il pourrait encore le dire. Il a cherché à se montrer churchillien et à renvoyer ceux qui en doutent dans les bras de Daladier et de Chamberlain. En fait, c'est le même roulement de tambour depuis 10 jours, et si l'on s'en tient à la politique intérieure, Emmanuel Macron persiste dans sa stratégie fondée sur la peur, l'effet drapeau et la poutinisation de Marine Le Pen. Cela fait 2 semaines, Dimitri, que la politique tourne autour de cela et je ne voudrais pas transformer cet exercice éditorial en tour de manège. Donc ce matin, je vous propose un pas de côté. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi un président qui avait fait du silence la condition de l'autorité, qui avait à juste titre critiqué la présidence bavarde de François Hollande, a décidé de parler partout, toujours, et tout le temps.
Il faut dire qu'à chaque fois qu'il parle, Emmanuel Macron fait de grosses audiences. Ça veut quand même dire qu'il intéresse les Français.
Il est président de la République et il aborde des questions d'une extrême gravité, une épidémie mondiale, une guerre. Il est logique et même rassurant que les Français l'écoutent pour savoir à quelle crise ils vont devoir faire face. Mais au-delà des allocutions indispensables, il y en a tellement qui sont accessoires. Je ne crois donc pas être le seul Français à m'interroger sur ce phénomène du Macron-rama. L'écrivain François Sureau, il y a quelques jours, a même plaidé pour un carême républicain, c'est-à-dire une forme de jeûne médiatique d'assaise commémorative pour ceux qui en abuseraient. On peut croire qu'il pensait à Emmanuel Macron.
Comment expliquez-vous cette omniprésence présidentielle, Vincent ?
Le macronisme, a dit un jour Jérôme Jaffré, c'est une pyramide qui tient sur la pointe. Cela ne repose que sur un seul homme, Emmanuel Macron. Il y a donc une logique politique évidente à cette omniprésence. La société médiatique, ensuite, est insatiable. Il faut donc la nourrir. C'est une autre explication évidente. Mais il y a d'autres causes. Un jour, un ministre qui sortait d'un conseil des ministres qui avait largement débordé m'avait confié au sujet du chef de l'État. Ça le rassure de s'entendre parler, ça l'inquiète quand il doit se taire. Et je repense là à la conférence de presse du mois de janvier, vous vous souvenez ? Emmanuel Macron avait demandé, j'ouvre les guillemets, que le théâtre devienne un passage obligé à l'école parce que cela donne confiance. Le théâtre, c'est une passion pour Emmanuel Macron. Et c'est peut-être cela la clé. En 7 ans de présidence, le chef de l'État aura enfilé tous les costumes, joué tous les rôles, arpenté tous les décors. Le théâtre, c'est un texte, c'est un comédien, c'est un public et c'est un décor. Et à travers ce carré magique, Vous pouvez faire une rétrospective de la présidence actuelle, comme Tintin est au Tibet ou Martine est à la plage. Vous avez Macron devant un hôpital de campagne pendant le Covid, sur le tarmac pendant la guerre d'Ukraine. Il aura aussi épuisé tous les formats, le grand débat jusqu'au bout de la nuit, les allocutions, les hommages et les commémorations. Et puis au centre du motif, le président bravache qu'il vienne me chercher, le président ému qui ralentit le rythme et fait trembler la bouche, le président confiant qui rejoue le grand oral de l'ENA, le président grave qui voudrait avoir des accents churchilliens, le comédien qui pointe sous le président, c'est peut-être ça le secret du macronisme.
L'édito politique sur Europe 1, merci Vincent Trémollet-Villers. Et à la une du Figaro ce matin, Emmanuel Macron justement, qui assume le face-à-face avec Vladimir Poutine. Bon week-end Vincent, à lundi.
Il est 7h56, vous écoutez Europe 1, très bon début de journée, nous sommes le vendredi 15 mars. Écoutez cette info qui peut faire mal hein, moralement. Il y a 52 ans aujourd'hui, le 15 mars 1972, sortait ce film. Francis Ford Coppola, Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, le parrain, le tout premier, c'était le 15 mars 72.
Et il a moins pris de rythme que nous finalement, c'est ça qu'on se dit.
C'est exactement ça.
Coup de temps. Nous fêtons également ce jour Sainte-Louise de Marillac qui vécut au XVIIe siècle, une fille naturelle d'un grand seigneur. Elle croise un jour le chemin de Saint-Vincent de Paul avec qui elle fondera la Compagnie des Filles de la Charité qui existe toujours et est présente dans plus de 100 pays. Dans la prochaine heure, Eugénie Bastier nous racontera ses années Sciences Po où l'on verra que la dérive n'a pas commencé. Mardi dernier, rue Saint-Guillaume et avec Catherine Rey, on parlera des guerres du général Macron face à Romain Desarbres dans un quart d'heure. François-Olivier Gisbert, le journaliste, la météo, le journal dans un instant.
La météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr.
Demeco.
Bientôt 8h, Anissa Haddadi. Le temps, il faudra être sur le pourtour méditerranéen pour apercevoir le soleil aujourd'hui.
Elle peut être très vite fait, hein, cette météo d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il pleut partout, sauf sur le pourtour méditerranéen. En Corse, le temps est calme ce matin, mais ça va se gâter au fil des heures avec quelques petites averses locales et le vent qui se lève. Mais alors, partout ailleurs, c'est très agité. Ce matin, nous avons des averses uniquement sur la moitié nord et cet après-midi, ça va vraiment s'accentuer. Des averses de plus en plus fréquentes, des giboulées même sous forme d'orages avec du grésil entre la région parisienne, la Bourgogne, la Franche-Comté, des orages également sur le centre-Val de Loire, le Poitou-Charentes et le Limousin. Les températures 13 à 21 degrés, 13 pour Dunkerque, 16 à Paris, 18 à Bordeaux, Toulouse et Biarritz et 21 à Perpignan.
Merci Anissa Haddadi, bon réveil à vous, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 15 mars, bonne journée à vous, il est 8h.
Qu'est-ce qui se joue en Ukraine ? Une guerre qui est existentielle. Pour notre Europe et pour la France.
Emmanuel Macron, chef de guerre à la télévision hier soir face à l'escalade avec Moscou. Nous sommes prêts à répondre, a dit le président, qui montre les dents et menace toujours de mobiliser des troupes au sol en Ukraine. Alors va-t-il réussir à convaincre aujourd'hui le chancelier allemand ? Dubitatif, rencontre à Berlin ce jour. Les Russes aux urnes, eux, pour une présidentielle dont on connaît déjà le résultat. Élection sur fond de guerre, vous allez l'entendre, des Russes luttent à leur manière contre Vladimir Poutine. Dans ce journal également, les avions de la discorde, grande consultation un peu partout dans le pays contre les nuisances sonores. Et puis le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, c'est aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain va être fixé sur son avenir européen.
Europe 1.
Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La une du Télégramme dit tout de ce qui se joue sur la scène internationale. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine face à face dans une demi-pénombre. Le maître du Kremlin sur le point d'être réélu, on va en parler dans un instant, face à un président français qui se veut leader de l'intransigeance en Europe. Hier soir, lors de son interview télévisée, Emmanuel Macron a rappelé son soutien sans faille à l'Ukraine. Bonjour Arthur Delaborde.
Bonjour à tous.
Pluie de critiques après l'intervention du chef de l'État. Arthur, Jordan Bardella, le président du RN par exemple, dénonce, je cite, une forme de légèreté, d'irresponsabilité et de cynisme qui a de quoi inquiéter les Français. Peut-on dire que le président veut faire peur aux Français, Arthur ?
En tout cas, Emmanuel Macron assume son choix de l'ambiguïté stratégique. Il le dit clairement, toutes les options sont possibles. Il confirme ne pas exclure l'envoi de troupes au sol, tout en cherchant à rassurer les Français et ses alliés européens.
Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative.
Le chef de l'État insiste sur la gravité de la situation sur le terrain.
Ce début d'année 2024 doit être pour nous celui du sursaut. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. La sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas.
Emmanuel Macron cible également, sans les nommer, le Rassemblement National et la France Insoumise après leur prise de position à l'Assemblée Nationale.
Alors la séquence ukrainienne d'Emmanuel Macron, Arthur, va se poursuivre cet après-midi à l'occasion d'un sommet à Berlin.
Oui, il intervient alors que les points de discorde s'accumulent sur le soutien à Kiev. Malgré des approches différentes, le couple franco-allemand finit toujours par se retrouver sur l'essentiel, tempère un conseiller de l'exécutif. Pour autant, la tâche s'annonce difficile. D'abord, car Olaf Scholz et Emmanuel Macron n'ont pas vraiment une relation personnelle de qualité. Ensuite, car ils se trouvent tous les deux dans une situation de faiblesse politique. Le chancelier allemand doit composer avec une coalition fragile. Le chef de l'État français, lui, a toujours une majorité relative et s'apprête à affronter des élections européennes difficiles pour son camp.
Choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, c'est pas choisir la paix, c'est choisir la défaite. Et c'est très différent.
Merci beaucoup Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.
Et c'est dans ce contexte que l'élection présidentielle a débuté hier soir en Russie.
A commencer par l'extrême-orient russe, à Vladivostok, près de 7000 km de Moscou. 3 jours de scrutin pour que Vladimir Poutine remportera sans difficulté. Pas de suspense donc, mais des inquiétudes, car les autorités locales craignent que les adversaires du Kremlin n'en profitent pour passer à l'action, Nicolas Tonev.
C'est encore un, c'est un drone ukrainien. La scène se passe à Ryazan, au sud de Moscou, il y a 48 heures. La guerre se ressent, alors que le pouvoir dit garantir une vie normale, surtout pour aller voter. Autre source d'inquiétude, les incursions militaires menées par des opposants russes.
Nous, citoyens de Russie, avons le droit de participer à cette élection. Et donc, nous commençons à y participer.
Des Russes actifs contre Vladimir Poutine, une autre forme de déstabilisation en période électorale. Les défilés de personnes rendant hommage à Alexei Navalny ont montré que le courage de s'opposer pouvait encore exister en Russie. Une menace même mesurée qui justifiait un rappel à l'ordre hier de Vladimir Poutine.
Il ne s'agit pas seulement de voter, mais d'exprimer clairement votre volonté personnelle de participer au développement futur de la Russie, parce que les élections, c'est un pas vers le futur.
Dans cet étrange climat, des centaines de milliers de policiers et de membres du FSB sont mobilisés pour minimiser ou dissimuler toute aspérité pouvant gêner le plébiscite qu'attend Vladimir Poutine.
Nicolas Tonev, spécialiste européen des pays de l'Est, un scrutin qui se déroule également dans plusieurs villes ukrainiennes annexées par les Russes, notamment Donetsk, où 3 enfants ont été tués ce matin lors d'une frappe. Le maire pro-russe de la ville accuse les forces ukrainiennes.
Europe 1, il est 8h05. 3 personnes mises en examen pour homicide ou tentative d'homicide en bande organisée après la mort de Thomas à Crépol.
Oui, 6 autres des personnes interpellées lundi ont été libérées. 2 autres sont toujours en garde à vue. Et puis à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, le directeur d'une école catholique placé en garde à vue, dénoncé par une voisine qu'il a aperçu en pleine exhibition sexuelle dans un coin de la cour. Il aurait été interpellé dans son bureau alors qu'il venait de s'injecter de la drogue.
Et eux n'en peuvent plus, le bruit, la pollution sonore, les riverains des aéroports tirent la sonnette d'alarme.
En 20 ans, le trafic aérien a doublé et les nuisances aussi. Ces derniers jours, plusieurs rassemblements ont eu lieu un peu partout en France pour dénoncer cet enfer quotidien. Plusieurs associations vont être reçues aujourd'hui par le ministère des Transports. Dominique Réveillère est membre de l'association de défense contre les nuisances aériennes. Il vit sous l'un des couloirs aériens de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle à Margency. Caroline Baudry s'est rendue chez lui pour un reportage.
Au-dessus du jardin de Dominique, le ciel n'est jamais vraiment bleu, mais toujours lacéré par les traînées blanches des avions. Quand il fait beau, il compte 1 minute 30 entre 2 passages assourdissants.
Et là, on a la joie de, si on a une vue correcte, à lire les compagnies. Oui, des compagnies aériennes qui passent au-dessus de notre tête. Donc, on a fait refaire tous nos doubles vitrages pour limiter un peu le bruit.
À midi, pas de répit, souffle Annie, sa voisine.
On est obligé d'interrompre les conversations. On ne s'entend plus autour d'une table quand on mange dehors. Quand ils tournent, qu'ils attendent l'atterrissage, qu'ils n'ont pas la piste. Et je vois les trains d'atterrissage qui sortent au-dessus de ma tête.
Et quand ces retraités nettoient la table?
Des traces de noir, des dépôts un peu verdâtres, oui.
Pour casser cette routine infernale, ils implorent quelques heures de calme, un couvre-feu sur les pistes entre 22h et 6h.
Je ne peux jamais dormir la fenêtre ouverte et je dors souvent avec des bouchons d'oreilles. Et elle est courte la nuit. C'est très pénible, très énervant et on ne s'y habitue pas. Non, pas du tout.
Alors l'ancienne institutrice vient de mettre sa maison en vente. En attendant, elle confie espérer le mauvais temps. Selon elle, les avions survolent alors moins son logement acheté en lisière de forêt. Margency, Caroline Baudry, Europe 1.
Les avions trop bruyants et les trains peut-être bientôt de nouveau à l'arrêt. Sudrail a déposé un préavis de grève qui couvre tout le mois de mai. De quoi gâcher les week-ends prolongés du joli mois. Sauf si syndicats gaz et direction trouvent un accord lors de leur prochaine réunion de négociation le 10 avril prochain.
Le football, trois clubs français engagés pour les quarts de finale des compétitions européennes. On n'avait plus vu ça depuis 20 ans.
Oui, Lille, Marseille et le Paris Saint-Germain. Tous trois connaîtront leurs adversaires à la mi-journée. Les Parisiens, qui n'avaient pas atteint ce stade de la Ligue des Champions depuis 2021, s'attendent à rencontrer une équipe bien plus coriace que la Real Sociedad qu'ils ont éliminée en 8e, Cyril de la Morinerie.
Oui, quoi qu'il arrive, le PSG va rencontrer un poids lourd européen, car les clubs encore en lice ont la particularité d'avoir tous participé à une finale de la Ligue des Champions lors des 20 dernières années. Pour le PSG, c'était en 2020. C'est évidemment le cas du Real Madrid au palmarès gigantesque, ou encore de Manchester City, le tenant du titre. Deux équipes à éviter à tout prix, estime le consultant d'Europe 1, Giroud.
Manchester City ne gagne pas toujours la Coupe d'Europe, enfin ils vont presque toujours en demi-finale ou en finale. Alors le Real Madrid, c'est son histoire, c'est le petit coup de main de l'arbitre qu'il y a presque à chaque fois.
Parmi les épouvantails de ce tirage figure également le Bayern Munich, méfiance également du FC Barcelone porté par sa jeunesse ou encore de l'Atlético de Madrid emmené par Antoine Griezmann. Pour Paris, le tirage le plus favorable serait d'affronter les Anglais d'Arsenal qui viennent d'éliminer au tir au but Porto ou le Borussia Dortmund. Cette saison en phase de groupe, les Parisiens n'ont perdu aucun des deux matchs qu'ils ont disputés face aux Allemands.
Cyril de la Morinerie. Et si Kylian Mbappé, annoncé en partance pour le Real Madrid, veut participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France cet été, eh bien ce n'est pas le club madrilène qu'il faudra choisir. La direction des Merengues a envoyé un courrier à la 3F hier, la Fédération Française de Football, pour dire qu'ils n'autoriseraient pas leurs joueurs à prendre part au tournoi olympique. Ça, c'est dit.
Merci beaucoup Fanny Marceau. C'était votre journal. Dans la prochaine demi-heure à 8h30, la revue de presse d'Europe 1 avec Eugénie Bastien viendra sur la polémique Sciences Po, école qu'elle a faite. Elle nous racontera ses années Sciences Po et l'on verra que les dérives constatées actuellement ne datent pas d'hier. Dans un instant, sur Europe 1 face à Romain Desarbres, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, le journaliste et éditorialiste Franz-Olivier Gisbert. Il est 8h10 sur Europe 1.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Merci d'écouter Europe 1 tout de suite. Franz-Olivier Gisbert est l'invité de Romain Desarbres.
La grande interview CNews Europe 1, bienvenue à tous. Bonjour Franz-Olivier Gisbert.
Bonjour Romain Desarbres.
Merci d'être avec nous, journaliste, écrivain, bien sûr, auteur du livre Histoires intimes de la 5e République, dont le dernier tome est la tragédie française. Merci d'être avec nous ce matin, au lendemain donc de l'interview du président de la République, où il a été question de l'Ukraine. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui a maintenu sa position, il n'exclut pas d'envoyer des troupes au sol. Déjà, comment est-ce que vous l'avez trouvé, Emmanuel Macron, hier soir à la télé?
Excellent. Bah oui, de temps en temps, oui. Moi, je suis un journaliste honnête, j'essaie de temps en temps de prendre du recul, et franchement, je tape à bras raccourcis régulièrement sur Macron. Là, franchement, c'était sobre, et c'était bien.
Qu'est-ce que vous avez aimé?
Le fond du discours, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu de pédagogie, C'est-à-dire qu'il y a l'idée sotte qui s'est répandue en France, mais comme dans tous les pays d'ailleurs, toujours, c'est que pour faire la paix, il faut préparer la paix. Il faut faire la paix. Voilà, ça c'est un peu le tweet de Mélenchon. Je dis que c'est une idée sotte parce que ça correspond à rien dans l'histoire. L'histoire, justement, elle a été faite par des gens qui ont préparé la guerre pour ne pas la faire. Il faut relire l'art de la guerre de Sun Tzu, 6e siècle avant Jésus-Christ, un général chinois qui écrit, et ça sert encore aujourd'hui, d'ailleurs c'est un livre qui se vend toujours, il explique que la guerre, c'est en ne la faisant pas qu'on la gagne, et que l'art de la guerre, c'est de vaincre sans combattre. Voilà. Et c'est ça l'idée. Et si vous voulez, là, moi je ne ferai même pas le procès, j'entends les procès ce matin sur... Il essaye de, là, c'est dans le cadre des européennes, il essaye d'exister, etc. Non, parce que il y a quelques mois, l'Ukraine n'était pas dans cette situation. Et il y a quelques mois, on ne pensait pas que peut-être Donald Trump allait gagner les élections. Et Donald Trump, vous savez, là, c'est fini pour l'Europe. Hein. Il s'en fout, il va regarder du côté de l'Ouest, dire du côté de la Chine, et rien à foutre de l'Europe, il va nous laisser tout seul nous débrouiller avec Poutine et Erdogan. Ça promet. Donc, il y a une forme d'inquiétude quand même quand on regarde un peu loin. Et là, j'ai trouvé que franchement, on peut le
dire
de temps en temps.
Vous dites qu'il faut montrer les muscles à Poutine. Il n'y a que ça qui comprend.
Bah oui, sauf qu'on n'a pas beaucoup de muscles sur le plan militaire. Il y a beaucoup d'efforts à faire. faire. Mais enfin, on a quand même, avec cette armée professionnelle, on a quand même une élite militaire. Il faut pas... Là-dessus, c'est clair que l'armée française, elle tient le coup. Mais bon, c'est sûr que il y a beaucoup de choses à améliorer. Notamment sur le plan du matériel.
Il s'adressait aux Français ou à Vladimir Poutine hier soir, Emmanuel Macron ?
Les deux. Les deux, je pense que cette fermeté, elle est saine. Puisque la réalité des choses, vous savez, il y a, comment dire, je dis pas que c'est dans les gènes russes, mais il y a quelque chose d'étrange dans la Russie, toujours qui se plaint et qui veut toujours avancer. N'oubliez pas qu'après la guerre, par exemple, la Russie a volé pas mal de choses. Elle a par exemple volé une ville qu'on appelle aujourd'hui Kaliningrad, Königsberg, ça s'appelait autrefois, avant la Deuxième Guerre mondiale. Et Königsberg, vous savez ce que c'était? La capitale de la Prusse orientale. Hein, les pays baltes que Poutine revendique, au départ, c'est l'ordre des chevaliers teutoniques. Les chevaliers teutoniques, à ma connaissance, ils sont ni russes, ni soviétiques, ni communistes. Voilà. Donc ça n'a rien à voir. C'était au contraire. D'ailleurs, les Pays-Baltes sont habités par les germano-baltes, comme on dit. Donc si on fait un peu d'histoire et qu'on regarde le discours de Poutine sur l'Ukraine, c'est à nous. Demain, d'ailleurs, il n'y a pas de raison. Si l'Ukraine a été occupée pendant 2 siècles par la Russie, donc elle serait russe. La Pologne aussi a été occupée 2 siècles, donc elle sera russe aussi. Puis peut-être demain, il nous dira... les Pays-Baltes, là, il dit de temps en temps que la Moldavie l'intéresse, puis peut-être demain, ce sera à Paris, parce qu'il y a des Chagall à récupérer, grand peintre russe. Non, mais c'est ça. C'est ça. À un moment donné, il faut mettre le haut là.
Sur l'opinion publique française, si la Russie gagne, c'est la sécurité de toute l'Europe qui est en jeu. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, et notamment, c'est ce que vous disiez, la sécurité des Français. Comment, à votre avis, Franz-Olivier Gisbert, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin, comment, à votre avis, l'opinion public français, donc comment les Français accueillent ce message?
C'est un peu angoissant, c'est sûr. Ah non, mais je ne veux pas dire que ce n'est pas angoissant, mais la situation du monde aujourd'hui est angoissante. Il y a des conflits absolument partout. Mais je pense hier, si vous voulez, il a fait de la pédagogie, il a expliqué la réalité des choses. Vous savez, Poutine, il faut bien voir qu'est-ce que c'est. La Russie, c'est une kleptocratie. C'est une mafia qui gouverne. Il ne veut pas être pendu. Il a peur de son peuple, Poutine. Et quelle est la meilleure façon, de s'en sortir pour lui? C'est toujours la fuite en avant de beaucoup de tyrans. C'est-à-dire, c'est d'avancer, de donner à manger aux nationalistes, c'est-à-dire voilà des petites conquêtes assez régulièrement, et une fois qu'il en aura fait une, il faudra qu'il en fasse une autre, parce qu'il a peur. Je pense que ça apparaît très bien, d'ailleurs. Franchement, s'il n'avait pas peur, il n'aurait pas fait tuer Navalny, il n'aurait pas fait attaquer à un coup de marteau là son chef de cabinet, son ancien chef de cabinet, enfin son bras droit à Vénus il y a quelques jours. Enfin, on voit bien que c'est quelqu'un qui est quand même, il n'est pas à l'aise.
Emmanuel Macron, qui est soupçonné par l'opposition, en réalité, de mettre la Russie, l'Ukraine au cœur des débats actuellement, pour en fait jouer la carte de la politique intérieure, ouais, pour les Européens. Oui, vous y croyez ou pas? Vous êtes sur cette ligne ou pas? Visiblement, non.
Non, je n'y crois pas parce
qu'il n'a pas cité le RN ni France Insoumise hier soir.
Non, mais c'est vrai qu'on peut le penser. Ça me paraît d'ailleurs naturel de le penser. C'est aussi de la politique politicienne. Mais simplement, les circonstances font qu'aujourd'hui, c'est normal qu'il intervienne. Parce que c'est normal de tenir ce discours. Je le répète, l'Ukraine, aujourd'hui, souvenez-vous, encore il y a quelques mois, on pensait même que peut-être l'Ukraine allait gagner la guerre. On n'en est plus là du tout. Au contraire, l'Ukraine est un peu dans les cordes. Donc la situation a radicalement changé.
C'est Poutine qui a changé ou c'est nous qui avons changé? On va revoir les images sur CNews et pour les auditeurs d'Europe 1, je vais les décrire. Mais Emmanuel Macron a quand même reçu Vladimir Poutine en grande pompe en 2017, donc 3 ans après l'invasion de la Crimée, 3 ans après, reçu à Versailles. Et puis, 2 ans après, il a été reçu, Vladimir Poutine, à Brégançon. Qui a changé?
Oh, je pense qu'on se fait des illusions sur Poutine. Vous savez, il y a en France un courant russophile. Moi, je suis très russophile. J'adore la Russie. Enfin, on est tous un peu pareil. Et donc, je pense que beaucoup de gens sont trompés sur Poutine. Il y en a qui sont pas trompés. Vous regardez le livre de politique étrangère que François Hollande a écrit. On voit bien que lui, s'était pas trompé. Mais Poutine, je crois, a toujours été Poutine. C'est un ancien chef du KGB qui, en plus, est comment dire, sa rapace. C'est un rapace avec sa mafia d'oligarque. Il essaie de ramasser le maximum. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il tue surtout ses opposants qui s'attaquent à sa prévarication. C'est-à-dire, c'est très étrange. Il est à la tête d'un immense pays qui est assez pauvre, qui a pourtant beaucoup de richesses. Mais les gens sont pauvres. C'est un petit PIB, comme on dit, produit intérieur brut. Hein, c'est à peu près l'équivalent de l'Italie pour un grand pays comme ça, avec plein de richesses, un peuple très nombreux. Enfin, il y a quelque chose qui cloche, quoi, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours un peu obligé d'avancer.
On parlait des européennes à l'instant. On va se pencher sur cette campagne des européennes. En 2019, l'écart entre le RN et La République En Marche était de 200 000 voix, soit moins d'un point. 5 ans plus tard, Jordan Bardella a presque 12 points d'avance sur Valérie Ayer dans les sondages. Quel est votre commentaire?
Bah, c'est énorme. C'est-à-dire, on a le sentiment quand même que le Rassemblement National se rapproche de plus en plus du pouvoir. Et là, vous voyez, je vais être moins gentil pour Macron. J'ai l'impression que Macron fait tout pour l'aider, sans faire exprès, mais simplement. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? C'est le gouvernement de la parlotte. Hein, c'est ça, le gouvernement de la parlotte. Un gouvernement qui n'agit pas. Et il est temps d'agir. Alors, on voit, oui, il y a beaucoup de déclarations maintenant.
La stratégie de l'exécutif, ça consiste à tacler le RN, pour être très, très clair.
Oui, oui.
C'est son programme de campagne.
C'est une stratégie idiote, parce que là encore, c'est la parlotte. Il faut agir. Vous voyez, il y a des sujets fondamentaux. La France est menacée, pas seulement par la Russie. Et là, j'aurais aimé de temps en temps aussi que Emmanuel Macron, au lieu de se regarder souvent dans le miroir sur les grands sujets, parle aussi, par exemple, la dette incontrôlée. C'est un vrai sujet. Ça peut nous tomber dessus à tout moment, une crise financière, on le sait très bien. Parce qu'on est dans une situation intenable, on dépense beaucoup plus qu'on produit, hein, on travaille pas beaucoup, les Français. Enfin, je veux dire, vous voyez, il y a tous ces sujets qu'il faut traiter. L'immigration, si vous rajoutez les premiers titres de séjour aux premières demandes d'asile, ça fait déjà 460 000. Vous savez que, par Gérald Darmanin, il l'a dit, qu'on a entre 600 000 et 900 000 clients. Ça fait quoi alors chaque année en plus? L'équivalent de 600 000, peut-être 700 000 immigrés supplémentaires. Donc, c'est ingérable. C'est ingérable dans l'école. C'est ingérable, on voit très bien. Il y a un côté, comme si nous
vous
étions...
Vous voyez la France décliner, François-Olivier Gisbert?
Bah oui, je dirais, il y a un effondrement, il faut s'en occuper. Et je veux dire, quand on a 100 milliards de déficit budgétaire et qu'on est content parce que c'était beaucoup plus l'année d'avant, il y a quelque chose qui cloche quand même. Voilà. Et puis regardez d'ailleurs les dernières prévisions de l'INSEE, ça fait un petit froid dans le dos quand même. C'est-à-dire que le premier trimestre pas de croissance, le deuxième ça sera un
et
petit peu.
Et on révise
peu,
à la baisse la croissance. Chouillard. Il y aura moins d'un pour cent a priori cette année.
Oui, mais enfin bon. Et ça, c'est la conséquence de quoi? C'est un pays qui est mal géré. Qui a des déficits partout. C'est pas comme ça qu'on fait de la croissance. Vous savez très bien, la croissance.
Est-ce que les Français sont prêts à entendre qu'il faut faire de gros efforts?
Eh ben, je veux dire, justement, c'est un discours qu'il faudrait tenir. Le général de Gaulle, souvenez-vous de 1958, hein. Là, c'est l'historien de la cinquième qui parle. 1958, le plan de rigueur, le plan d'assainissement, Pinet-Rueff, qui était conçu par Jacques Rueff, qui est un grand économiste, il faudrait lui mettre des statues partout. C'était un plan extrêmement violent, extrêmement dur. Quelques années plus tard, la France avait une croissance à la Chine.
On avait peut-être le sens 6%. De l'effort, peut-être un peu plus à l'époque.
Ça revient facilement. Les Français n'attendent que ça. On a un grand peuple. Enfin, faut cesser de dire, voilà, que c'est foutu, que c'est fini. Mais non. Mais simplement, il faut redonner des perspectives et puis il faut faire preuve de courage.
Beaucoup de sujets à voir avec vous, François-Olivier Gisbert, invité de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé à Sciences Po. Une étudiante, membre de l'Union des étudiants juifs de France, qui s'est fait refuser l'entrée dans un amphithéâtre de la prestigieuse école parisienne à l'occasion d'une journée de mobilisation universitaire pour les Palestiniens de Gaza. Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po?
Bon, c'est le wokisme. Voilà, c'est le temple du wokisme. Et là encore, il y a eu beaucoup de faiblesses. Hein. C'est un copain de Macron qui était directeur, là, qui est parti pour des raisons différentes. Je crois que c'est
Mathias Vichra.
Bon, ouais, voilà, bon, le pauvre, il est présumé innocent. Ne commentons pas. Mais c'était typique d'une gestion, laxiste. on laisse aller, c'est pas grave. Mais non, c'est grave. À un moment donné, je veux dire, ce pays est en train de perdre le sens des règles. Vous voyez, il suffit de se promener dans la rue, notamment à Paris, j'en parle pas. Enfin, c'est tout ça est angoissant. Tout le monde grille les feux rouges. Enfin, c'est hallucinant. Et ça, si vous voulez, c'est le symptôme d'une espèce de dérèglement général de la société. Et je veux dire, quand je parle d'effondrement, c'est un effondrement. Et je pense que là, Macron, après le, comment dire, oui, je dirais son...
Parce que la direction de Sciences Po a de fait laissé faire.
Mais, c'est-à-dire, c'est considéré comme normal. Il faut rien faire. Mais je pense qu'il est temps de rétablir l'ordre. Et puis, comment dire, l'histoire de ce qui s'est passé là est absolument abjecte. Hein, je pense que il y a beaucoup de gens. Moi, franchement, je suis pas juste. Je me sens juif quand je vois ce qui est fait aujourd'hui. Comment ça se passe? Parce que il y a pas que ça. Marco, là, le monsieur là, qui s'est fait taper à coup de marteau en sortant d'une synagogue, dans le 20e arrondissement. Oui. Bon, bah oui. Moi, je me sens Marco aussi. On se sent tous comme ça. Il y a quelque chose qui va pas dans ce pays. Vous le voyez bien. Et on a la bon. Et c'est parce qu'il y a un sentiment, comment dire, d'impunité. Je pense qu'il faut revenir.
Il y a une extrême gauche qui souffle sur les braises. Il y a une extrême gauche antisémite en France.
Allez, on va le dire, oui, bien sûr. On le sent très bien. Certains élus, enfin, on entend des discours, ce sont des discours antisémites, bien sûr. Déjà, quand on dit Hamas n'est pas terroriste, bah oui, quand même, excusez-moi.
Tout est dit dans cette phrase.
Oui, c'est les viols, les pogroms et tout ça. Et les viols n'ont pas d'importance. Mais c'est toutes ces féministes, ces soi-disant féministes, qui vont manifester, qui trouvent tout à fait normal. Bah oui, c'est normal, ce sont des Israéliennes, c'est pas grave, si elles ont été violées. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Et je veux dire, vous ouvrez n'importe quel poste de radio, vous entendez certains élus sur ces questions, notamment autour de... Attendez, moi je suis pour un État palestinien, ça n'a rien à voir. Je dis simplement que nous avons des Juifs chez nous, ils ne sont pas comptables de ce qui se passe là-bas. Et je veux dire, ils ont le droit aussi, le droit à l'existence en France. Ils ont le droit à l'existence en Israël et en France. Il faut arrêter ça.
Vous imaginez, vous voyez, où est-ce qu'on en est? On en est à dire que les Juifs ont le droit...
Bah oui, de rester chez nous.
De rester chez nous.
Mais, et qu'est-ce qui se passe quand on leur dit ne rentrez pas, madame? Enfin, elle a le droit. Elle est chez elle. Enfin, il y a quelque chose... Vous voyez, et là, moi, franchement, je trouve que l'absence totale de réaction... bon, il y a des discours, bien entendu, mais je trouve qu'il faut faire des enquêtes. Là, je vois qu'il y a une enquête qui a été demandée, et j'espère qu'il y aura des sanctions. Il faut retrouver ces personnes qui, très courageusement, étaient derrière des cagoules, et puis il faut les virer de Sciences Po, ils n'ont rien à faire à Sciences Po.
Merci beaucoup, merci François-Olivier Gisbert, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale pour décrypter ce qui se passe en France. On a commencé par l'Ukraine et là on était sur ce qui s'est passé de scandaleux à Sciences Po. Merci beaucoup François-Olivier Gisbert, merci. La tragédie française, votre dernier livre. Merci beaucoup, merci. Bonne journée.
Merci Romain Desarbres et François-Olivier Gisbert. Dans un instant sur Europe 1, Catherine Ney, votre signature du vendredi. Eugénie Bastier sera avec nous, la revue de presse sur Europe 1, Olivier Delagarde.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
8h31 sur Europe 1, Catherine Ney dans un instant son édito du vendredi, juste après le journal permanent. Victor Pourchet.
Jamais nous ne serons à l'offensive contre la Russie, mais rien n'est exclu pour empêcher Moscou de faire tomber Kiev. Les mots d'Emmanuel Macron à la télévision hier soir qui font dénoncer aux insoumis et aux RN la peur que leur inspire le président. Trois jeunes mis en examen pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Ce sont les suites de l'enquête sur le meurtre de Thomas à Crépol et puis en football. Tirage au sort des quarts de finale de toutes les Coupes d'Europe cet après-midi. Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et Lille sont encore en lice.
La météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr.
Demeco.
Le temps à Nice, Dadine, nous avons des températures en légère baisse sous les nuages et surtout la pluie, c'est un peu le fait du jour. Hein.
Ah oui, légère baisse parce qu'hier on a quand même été jusqu'à 23 degrés à Auch. Aujourd'hui 21 à Perpignan, 19 à Carcassonne, Nîmes et Lyon, 18 degrés pour Toulouse, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Biarritz, 17 à Brive-la-Gaillarde et Limoges, 16 degrés à Paris, Nancy, Nantes et Saint-Étienne, 15 à Nice, La Rochelle et Saint-Brieuc et 13 degrés pour Dunkerque et Charleville-Mézières. Dans le ciel, quelques pluies ce matin entre le sud-ouest et le nord-est. Cet après-midi, c'est toute la moitié nord qui se retrouve sous des pluies orageuses qu'on appelle les giboulées du mois de mars. Seul le pourtour méditerranéen aura droit au soleil.
Merci Anissa Haddadi, 8h32 sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Il est l'heure de vos signatures du vendredi, le zapping politique dans un quart d'heure avec Dimitri Vernet, avec Eugénie Bastier. Nous reviendrons sur cette polémique Sciences Po, école qu'elle a fréquentée. Elle nous racontera ses années Sciences Po, où l'on verra que finalement ce qui s'est passé cette semaine n'a pas commencé la semaine dernière. La revue de presse d'Europe 1, également Olivier Delagarde en 5 minutes. Bonjour Olivier.
Mais oui Dimitri, bonjour à vous.
Dans les journaux ce matin.
Eh bien Macron-Poutine, deux présidents face à face, et puis je vous emmènerai dans les abysses de la pensée et dans le monde du silence.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, comme tous les vendredis, le regard sur l'actualité de Catherine Ney. Bonjour Catherine.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Pour se rendre à l'Arc de Triomphe, le jour de son investiture en 2017, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait emprunté un véhicule militaire blindé, monture inédite qui, vous pouvez traduire d'emblée, le plaisir de devenir le chef suprême des armées pour lui. Nous avons élu, Catherine, vous nous dites ce matin, un président à qui le mot de guerre ne fait pas peur.
Oui, en effet, comme c'est étrange. Le 16 mai 2020, il y a 4 ans, quasi jour pour jour, le président s'adressait aux Français pour leur annoncer que dès le lendemain, il serait confiné pour 15 jours au moins. Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, insaisissable, qui progresse. Et ça, nous sommes en guerre, il l'avait répété 5 fois et sur un ton très martial. Jamais la France, avait-il dit, n'a dû prendre de telles décisions en temps de paix. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas de jurisprudence. Que faire en effet en attendant les masques qu'on n'avait plus et les vaccins qu'on n'avait pas encore? Eh bien, nous boucler chez nous pour 15 jours au moins. En réalité, ça a duré 51 jours la première fois, parce qu'il y en a eu une deuxième à l'automne qui a duré 45 jours. On était empêchés de sortir, drôlement contrôlés et punis si on ne respectait pas les consignes. Ça ne rigolait pas du côté des forces de l'ordre. Et chaque soir, aux 20h, on égrenait le nombre de morts. Nous étions en guerre, mais les preuves frappaient, c'est vrai, quasi toute la planète.
Oui, et comme toute guerre, celle-là, celle du Covid, a laissé des séquelles.
Oui, d'abord plus de 100 000 morts sur les années 2020-2021, mais aussi la destruction de tant de commerces dans les villes qui ne sont pas revenus. C'eût été bien pire pour certaines professions sans l'aide de l'État, avec le fameux « quoi qu'il en coûte ». Puis il y a eu tous ces effets secondaires de l'enfermement, la solitude accrue des personnes âgées privées de leurs derniers liens sociaux. Et ce sont les plus fragiles qui ont été les plus touchés. Et une enquête montre que c'est chez les étudiants privés de cours, sans cantine, avec leur cercle d'amis cassé, qui ont le plus souffert et qui souffrent encore.
Hier soir, Catherine, le président a donc donné une interview, sa dernière mise au point pour expliquer aux Français qu'il, justement, n'était pas un 20 ans guerre.
Alors oui, l'opposition l'accuse de souffler sur les braises. Ben, il faut tout faire pour empêcher, parce qu'il a dit qu'il faut tout faire pour empêcher la Russie de gagner. En réalité, moi, on pourrait trouver qu'il est plutôt sorti de l'ambiguïté stratégique, puisqu'il annonce clairement « jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative, la France est une force de paix ». Voilà ce qui doit rassurer le chancelier allemand qu'il rencontre cet après-midi, c'est l'opération rabibochage. Mais aussi un message à Vladimir Poutine. Il lui dit, il faut avoir le nerf de la paix. Nous ne tirerons pas les premiers. Lequel, le premier, se dit prêt à se servir de l'arme de nucléaire. Oui, oui, mais si la Russie était victime d'une offensive.
Est-ce que ce n'est pas là presque un début de dialogue,
ben,
Catherine?
Si ce n'était pas Poutine, on pourrait y songer, mais il ne faut pas y croire. Et d'ailleurs, pas Emmanuel Macron, parce que... Avec ce revirement, il est devenu l'ennemi du pouvoir russe. Nous en subissons d'ailleurs les conséquences. Longtemps, il avait cru pouvoir
Catherine, fléchir. Pardonnez-moi, je vous interromps un instant. Votre micro a comme un petit problème. Je vais vous en approcher un autre, de manière qu'on vous entende distinctement. Anissa s'en charge à l'instant. Votre micro s'est mis à grésiller pour une raison que j'ignore. Je pense que c'est la puissance de votre propos, sans doute. Je ne vois pas d'autre explication. Voilà, le tort est réparé, le micro est performant. Pas. Vous pouvez...
Je ne sais pas où nous en étions, mais c'est dommage.
Nous disions finalement, ces échanges d'amabilité à distance entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, c'était peut-être presque un début de dialogue, donc.
Oui, enfin, ça l'aurait été, mais vous savez que Emmanuel Macron est devenu un peu l'ennemi du pouvoir russe et nous en subissons les conséquences. Et que longtemps, il avait cru pouvoir fléchir Moscou, ne pas humilier Poutine, disait-il aux Européens, que cela agaçait beaucoup. Et puis, il a compris qu'il ne servait à rien de lui parler. Ça, il l'a dit hier soir. Alors, la bascule s'est d'ailleurs faite en mai dernier. Depuis, il cherche à jouer le leadership de l'aide à l'Ukraine, même si la France ne se place qu'au 16e rang des donateurs. Mais je crois ce qu'il y a tout changé en réalité pour lui. C'est que depuis le 1er janvier, on voit qu'aucune arme américaine n'arrive en Ukraine. Mmh. C'est comme si Donald Trump était déjà élu, lui qui vient de recevoir le Hongrois Viktor Orban pour le présenter devant la foule comme le meilleur Européen, en lui disant « si je suis élu, pas un sou pour Kiev ». Or aujourd'hui, on le sait, la situation est très difficile en Ukraine. Et l'Ukraine a besoin d'être aidée. Et je crois que Macron a d'abord voulu faire, y compris avec ses blagues et ses choses qu'il ne fallait pas dire, faire comprendre aux Européens qu'on était tous plus que jamais dans le même bateau face à la Poutine.
Le regard sur l'actualité de Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine. On vous retrouve avec plaisir tous les vendredis dans Europe 1 Matin, 8h38. Dans quelques instants, Pascal Praud nous rejoindra pour le sommaire de Pascal Praud et vous. Votre rendez-vous avec l'antenne d'Europe 1, c'est vous qui vous exprimez tous les jours de 11h à 13h. Ce sera juste après la revue de presse d'Europe 1. Olivier Delagarde, à tout de suite.
Europe 1 Matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Le week-end sur Europe 1, place au sport avec Jacques Vendroux, le studio des légendes.
Oui, Jacques Vendroux et ses invités reviendront ce soir sur le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Qui va affronter le Paris Saint-Germain en quart de finale? Le tirage au sort, c'est ce midi et en détail avec toutes les explications ce soir à partir de 20h sur Europe 1 avec Jacques Vendroux et ses invités de 20h à 21h.
Conto, le compte pro qui simplifie toutes vos finances, vous présente la revue de presse.
8h41 sur Europe 1, la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. À la une ce matin, à deux actualités qui se télescopent.
Oui, parce que c'est à croire qu'Emmanuel Macron, hier, avait décidé de s'immiscer dans la campagne électorale russe. Bon, assez peu de chance pour que l'interview du président de la République ne gêne la réélection de Vladimir Poutine. On va y venir, mais commençons donc par cette interview d'hier. Pour faire suite à ce que nous disait Catherine, l'une des grandes questions était de savoir si notre président allait quelque peu rétro-pédaler après ses propos chocs sur une possible intervention de troupes françaises en Ukraine. Eh bien, la réponse est non. Macron assume le face-à-face avec Poutine, titre Le Figaro. La guerre en Ukraine est existentielle pour la France. Sa phrase sert aussi de titre aux Parisiens aujourd'hui en France. Et oui, bien naïf, celui qui imaginait que le président allait nuancer ses propos et rassurer le pays. Au contraire, écrit Philippe Gély dans son éditorial, Emmanuel Macron bat les tambours de la guerre et poursuit la mobilisation des esprits. Désormais, Vladimir Poutine n'a pas d'adversaire plus résolu en Europe Emmanuel Macron.
Et surtout pas d'adversaire plus résolu en Russie. Hein.
Parce que c'est l'autre grand sujet du jour, les élections présidentielles russes. Simulacre d'élection où toute forme d'opposition a été muselée. Elle se déroule sur 3 jours, rappellent les échos, plus exactement 3 jours et 2 nuits, parce que pendant la fermeture nocturne des bureaux, c'est le moment idéal pour bourrer les urnes, explique une jeune opposante au correspondant du journal Alexander Kinev, l'un des rares politologues indépendants à Moscou, évalue à quelque 20% le niveau de vote forcé ou fraudé, écrit Benjamin Kennel. La propagande vise notamment tous les Russes qui dépendent de l'État, fonctionnaires, étudiants, soldats, retraités, employés des groupes publics, ils doivent tous voter pour Poutine. Tous les moyens sont bons pour les obliger. C'est d'ailleurs fascinant de voir en 2024 un pouvoir en place se donner aussi peu de peine pour masquer son côté totalitaire.
On revient à Paris, Olivier Delagarde, où hier se déroulait une cérémonie et comme hors du temps.
Sous un soleil de printemps, écrit Étienne de Montetti du Figaro, les tambours de la garde républicaine ont salué l'entrée de Sylviana Gazinski sous la coupole. 11e femme à entrer à l'Académie française. Le Figaro consacre 2 pleines pages à l'événement. Le journal qui salue une philosophe subtile, courageuse. Et j'ajouterais, de gauche, mais pas n'importe quelle gauche, cher Eugénie Bastier, je sais que vous allez en parler. Marc Lambron, qui prononçait le discours d'intronisation, s'adressa d'ailleurs à elle en ces termes. Vous illustrez un féminisme girondin quand les jacobins sont sur les campus. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites pour rappeler que ses prises de position courageuses contre la GPA lui ont valu une haine inextinguible des féministes extrêmes. D'ailleurs, à ce propos, leur grande prêtresse est en France en ce moment. Judith Butler, la philosophe américaine, chantre de la théorie du genre, a été invitée par le Centre Pompidou et Le Monde lui consacre un grand papier un peu embarrassé quand même. Embarrassé parce qu'elle ravive la polémique à gauche, regrette le journal. Il y a quelques jours, au cours d'une table ronde, elle a affirmé que les attaques terroristes du 7 octobre par le Hamas relevaient de la résistance. Il s'agit d'un soulèvement qui ne saurait être assimilé à un acte terroriste ou une attaque antisémite, a-t-elle ajouté. Judith Butler, qui s'est également exprimée sur les viols perpétrés ce jour-là, affirmant que si ces allégations sont documentées, nous déplorons ces actes, mais nous insistons pour voir cette documentation. A-t-elle ajouté un brin suspicieux ? S'adressant à la salle, elle a prédit qu'elle serait bientôt attaquée pour avoir tenu ses propos. « Mais vous me défendrez », a-t-elle ajouté. Tempête d'applaudissements dans l'assistance. Mais on va terminer ce matin dans d'autres bas-fonds, mais silencieux cela. C'est dans La Croix que vous lirez le portrait du nouveau commandant du sous-marin nucléaire d'attaque, Tourville. Il s'appelle Guillaume Aigret et il vient de tout en bas, raconte Olivier Thalès. C'est un ancien matelot entré dans la marine à 18 ans, avec à peine le bac en poche. Les études ne sont pas faites pour tout le monde, explique-t-il. Il a donc gravi les échelons un par un. Chargé d'écouter les sons, il découvre la vie de sous-marinier en isolement complet, sans internet ni téléphone. Imaginez votre ado. Un monde du silence qui permet de réfléchir, dit-il. Et puis cela demande aussi quelques qualités relationnelles. Parce que vous trouvez que vous êtes peut-être un peu serré à la maison, eh bien un sous-marin, résume-t-il, c'est un peu comme si vous deviez vivre et travailler à 70 dans un appartement de 120 mètres carrés.
Ah oui.
Aujourd'hui, aux commandes de ce fleuron de la Marine nationale, de calme, il va en avoir besoin. Sa mission sera d'ouvrir la voie aux sous-marins lanceurs d'engins atomiques en cas de conflit. Avec qui vous savez.
70 dans un appartement de 120 mètres carrés, ça fait pas beaucoup. Merci beaucoup Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1. 8h46.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut.
Bon, le Pascal Pro est attendu au parloir d'Europe 1. On va sûrement le retrouver quelque part dans les couloirs de la rédaction. En attendant, vous avez rendez-vous comme tous les vendredis avec Eugénie Bastier. Bonjour Eugénie.
Bonjour.
Vous souhaitez revenir, Eugénie, ce matin sur la polémique Sciences Po. Il se trouve que vous y avez été élève.
Oui, voilà une chronique qui va me donner un coup de vieux puisqu'il y a 15 ans, je rentrais à Sciences Po. Alors, je me souviens d'avoir visité la rue Saint-Guillaume quelques années plus tôt avec ma grand-mère parisienne qui rêvait que je fasse cette école. Dans la péniche, vous savez, le grand hall d'entrée des étudiants, il y avait des tas d'affiches sur la liberté sexuelle et on distribuait des capotes. Ma grand-mère avait été un petit peu choquée. Quand j'y rentrais en 2009, on distribuait cette fois-ci des pisses debout pour que les filles puissent faire pipi debout comme les garçons. C'était les progrès de la théorie du genre. Alors ça, j'ai pas pu trop l'expliquer à ma grand-mère. Aujourd'hui, les murs sont couverts de slogans et de numéros verts appelant à la dénonciation des violences sexistes et sexuelles et on y distribue des tracts contre le sionisme. Le gauchisme culturel a muté en un climat de sectarisme et d'intolérance dont les fruits vénéneux ont éclaté au grand jour.
Alors est-ce que vous avez vous-même vécu, Eugénie, ce sectarisme ?
Oui, bien sûr. Parfois bas bruit, parfois plus violemment. C'est pas grand-chose, mais je me souviens avoir été avec mes petits camarades sifflés et traités d'homophobes par des militants LGBT parce que nous allions voir une conférence sur le pape François en plein débat sur le mariage pour tous. Le néo-féminisme, le post-colonialisme, la théorie du genre commençaient à faire leur nid dans cette institution. En 2010, Richard Descoings, un défenseur acharné de la discrimination positive, avait installé une chaire de Gender Studies à Sciences Po et mis en place la Queer Week, une semaine du genre et des sexualités. Depuis, le mélange entre recherche et militantisme, relativisme culturel et intolérance s'est accentué. En 2016, un Hijab Day, où l'on distribuait des foulards aux étudiants pour qu'ils manifestent leur soutien aux femmes voilées. En 2019, une conférence d'Alain Finkielkraut, qui a dû être délocalisée car des militants voulaient l'empêcher de parler. Tout cela a culminé évidemment cette semaine avec la manifestation antisémite de mercredi dernier, où, rappelons-le, une étudiante juive a été interdite d'entrée et traitée de sioniste. Alors bien sûr, il y a beaucoup de professeurs formidables à Sciences Po et je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur tout l'établissement, mais ne croyez pas pour autant qu'il n'existe qu'une minorité radicalisée. Selon une étude CEPVIPOF de 2022, 55% des étudiants de Sciences Po ont voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. La personnalité préférée des étudiants selon ce sondage, c'est Alexandra Ocasio-Cortez, l'égérie woke des démocrates américains. Sciences Po, aujourd'hui, c'est la folie intersectionnelle d'Harvard sans ses résultats aux classements internationaux. La fabrique des élites est devenue le laboratoire d'un wokisme à la française.
Alors aujourd'hui, l'administration de Sciences Po semble réagir face à ces dérives, Eugénie.
Oui, il est temps, hein, mais vous vous souvenez que l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal, avait suscité un torrent d'indignation parce qu'elle avait annoncé une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. C'était en 2021. Depuis, que s'est-il passé ? Rien. Il est temps d'agir. Alors hier, j'ai eu la chance d'avoir été à l'Académie française pour la réception de la philosophe Sylviane Agacinski. Elle-même avait été empêchée de tenir une conférence à Sciences Po Bordeaux par des activistes du même acabit que de ceux qui ont semé le chaos mercredi à Paris. Elle l'a dit dans son discours très puissant, je la cite, « La liberté de penser, d'écrire et de parler est menacée par des petits groupes d'activistes érigés en nouveaux censeurs. » Alors on parle souvent de deux gauches irréconciliables. Eh bien, pour l'avenir de l'université française, souhaitons que la gauche Agacinski triomphe de la gauche Sciences Po.
Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. Et je signale que le discours de Sylviane Agacinski, on peut le lire dans les colonnes du Figaro, de même que celui de Marc Lambron, qui le rendait. Oui, voilà, pas in extenso. Il y en a que deux pages, malheureusement, mais ça permet quand même de se rendre compte de la teneur de son propos, qui est absolument remarquable. Merci beaucoup, Eugénie Bastier. 8h50. Ah bah non, on enchaîne tout de suite. Pascal Pron, vous a retrouvé dans un couloir d'Europe 1. Comment ça va aujourd'hui?
Écoutez, ça va très bien. J'ai essayé de faire quelque chose qui m'arrive rarement de faire.
Quoi donc?
Ces dernières heures, réfléchir.
C'est vrai? Et alors, ça va? Ça fait pas trop mal?
Et c'est vraiment... Bon, et je suis arrivé à... Peut-être serez-vous d'accord avec moi.
Oui.
À un mot. Un mot qui résume la situation d'aujourd'hui. Impasse.
Vous sentez dans une impasse ?
Non, je pense que nous sommes dans une impasse avec ce qui se passe en Russie. Nous sommes dans une impasse. Derrière la phrase d'Emmanuel Macron, la Russie ne peut et ne doit pas gagner la guerre, il y a derrière cette phrase une impasse. Parce que derrière cela, c'est un monde. Et je pense que nous sommes dans une impasse. Parce que la vérité, c'est que la Russie va gagner cette guerre.
Mais politiquement ?
Puisqu'elle est plus forte, tout simplement, et que l'Amérique va peut-être sortir de ce conflit dans quelques mois, qu'est-ce que nous allons faire? Que vous avez Emmanuel Macron qui est seul, qui veut une place de leadership, mais il est seul, que les Européens sont divisés. Donc le mot qui résume, me semble-t-il, le mieux cette situation, il est très simple d'ailleurs, impasse. Si vous avez une solution, je veux bien l'entendre.
Eh bien, le téléphone d'Europe 1, vous le composez. Si, comme Pascal, vous vous sentez dans une impasse, ou au contraire, si Emmanuel Macron vous a convaincu, le numéro pour téléphoner.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé.
Voilà, et puis on vous retrouve dans 10 minutes aussi.
Oui, dans les autres sujets du jour, il y aura les 130 millions d'euros. Je vous en parle régulièrement quand il y a une petite cagnotte. Et puis il y a un sujet sur lequel le gouvernement a pris la parole, c'est qui condamne un événement dégradant. Il y aura un combat de nains. Organisé à Toulouse le 11 avril. Colère évidemment de l'association des personnes de petite taille. Et cet événement choque manifestement.
Et je crois que l'un des combattants sera avec vous au téléphone.
Exactement.
Bon, ben voilà, le rendez-vous.
Vieux débat juridique.
Oui, vous avez absolument raison. C'est à 11h sur Europe 1. Qu'est-ce qui m'arrive? Je perds ma voix. C'est parce que je vois arriver Dimitri Vernet.
Sûrement
8h52.
Ça.
À tout à l'heure, Pascal.
7h, 9h. Europe 1 matin.
Donc, le zapping politique européen, Dimitri Vernet, c'est à vous Dimitri, bonjour.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron était l'invité hier soir des JT de TF1 et France 2. Le président a tenté de clarifier sa déclaration ambiguë, de ne pas exclure l'envoi de troupes en Ukraine.
Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Qu'au sûr, vous n'allez pas l'exclure.
On est même sûr de le faire.
Voilà.
C'est toujours aussi ambigu, un bibi se voit toujours chef de guerre. Le député RN Laurent Jacobelli était sur BFM TV.
Après 40 minutes d'interview, on n'a toujours pas compris quelle était la stratégie d'Emmanuel Macron, mais on se demande si c'est vraiment pour parler d'Ukraine ou d'élections européennes.
Élections européennes, il en était question hier avec le premier débat entre les candidats sur Public Sénat, où on a pu découvrir le jeune Léon Desfontaines, la tête de liste du Parti communiste.
J'ai 27 ans, c'est mon premier débat, je suis effaré de voir que depuis le début, on s'invective, on s'apostrophe, etc. Quelle image renvoyons-nous de nous là aujourd'hui?
Oui, Léon découvre les débats politiques en France, à tel point qu'il nous a fait une petite confidence. Il nous a donné une info top secrète sur le dernier accord de libre-échange signé par l'UE avec le Chili.
Il prévoit d'importer 9 tonnes de porc, 9000 tonnes de porc, 2000 tonnes de bœufs.
Ah oui, on ne nous dit pas tout.
La bœuf, d'accord, j'ai compris.
Ça se met bien au Parlement européen. Non, mais c'est une petite boutade, bien évidemment. Sa fourche a juste langué.
9000 tonnes de porc, 2000 tonnes de bœuf.
Bref, lors de ce débat, tous les candidats étaient présents, sauf Jordan Bardella. La raison, j'ai cru comprendre qu'il avait un date. un rendez-vous galant avec la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot.
Voyez-vous ça.
Oui, elle est en crush sur Jordan.
Et c'est vrai que le sourire ravageur de Jordan Bardella fait gagner des codes de popularité.
On le voit dans ses yeux, hein. Elle est amoureuse, Prisca. Preuve en est, après sa déclaration, elle n'arrivait plus à parler.
C'est la politique du coucou. C'est-à-dire, je ne fais rien, je ne dis rien, mais je viens m'insérer pour essayer de me faire un peu refaire la pilule.
Se refaire la pilule. Pardonnez-la, bon, c'est les papillons dans le ventre, ça.
Ça faisait longtemps.
On termine avec cette question. Aya Nakamura chantera-t-elle lors de la cérémonie d'ouverture des JO? La question agite toute ta classe politique. Comme Gérard Larcher sur France 2, ce serait un mauvais choix pour le président du Sénat. Et pour cause, il connaît parfaitement le répertoire de l'artiste.
Quand je regarde le texte de ses chansons...
Qu'est-ce qui vous gêne dans ces textes?
Écoutez, vous voulez que je le dise sur le plateau? Kachaka, par exemple, qui est l'ode à la levrette.
C'est cash. Vous le savez, hein, au Sénat, on connaît bien tout ce qui est lié à cette thématique. Hashtag sextape. Mais le meilleur, ça reste cette anecdote livrée par le président du Sénat.
Vous savez, les Jeux Olympiques, moi j'y ai participé.
Alors,
pardon,
Dimitri Anissa, ne me regardez pas comme ça avec vos yeux de Merlan Free, je vous le dis. Cette anecdote, elle est vraie. Il a même eu une médaille d'or.
Non.
Je vous laisse faire vos recherches maintenant. De votre côté, ça sera votre devoir maison du week-end.
On en reparle lundi. La médaille d'or olympique de Gérard Larcher. Voyez-vous ça. Ça
m'a échappé.
Bon, dans merci. Quel domaine.
Merci beaucoup, Dimitri Verdet. Votre zapping politique. Dans une demi-heure, 9h30, Culture Média sur Europe. Les invités ce jour, Anissa Haddadi.
Marie Portolano pour la sortie de son livre Je suis la femme du plateau. Et Stéphane Guillon pour sa pièce Inconnue à cette adresse. Pièce très connue au Théâtre Antoine jusqu'au 13 avril. Stéphane Guillon, il avait déjà joué Inconnu à cette adresse avec un certain Gaspard Proust.
C'est à partir de 9h30 et dans un instant, l'heure des pros sur Europe 1. Bon week-end à lundi.
Europe 1.